Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Areski Sugar, stand-upper, podcaster, dentiste et personne curieuse de manière générale, d'où ce podcast qui me permet d'inviter des gens que je trouve intéressants, qui vont me parler de mondes que je ne connais pas forcément. Et aujourd'hui justement je recevais Charles Stevens, qui est un confrère, j'allais dire, de stand-up, puisqu'il évolue avec moi sur la scène parisienne de stand-up, mais en anglais, parce que je fais du stand-up en anglais. Alors je m'étais un peu promis au début de pas forcément faire d'épisodes avec des stand-uppers pour Sugar Free, en français en tout cas, puisque j'ai un autre podcast avec des stand-uppers en français qui s'appelle Le Meilleur Podcast, où en général on est 3 ou 4 stand-uppers à dire des conneries pendant 1h30, 2h d'ailleurs. Bon, allez vous abonner à ce podcast si c'est pas déjà fait. Et je voulais réserver, voilà, Sugar Free pour des tête-à-tête, genre un poil plus sérieux peut-être, ou un peu plus profond, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, de toute façon, le tête-à-tête se prête plus à faire quelque chose de profond et sérieux, donc je me suis un peu détendu sur cette règle de pas de stand-upper. Et je pense, voilà, je vais juste recevoir des gens que je trouve intéressants au moment où je veux les recevoir, tout simplement. Donc voilà, et là, Charlie, ça m'intéressait parce que voilà, il est stand-upper, mais il fait aussi autre chose. Il travaille un petit peu dans la politique européenne. Et il va vous parler de son expérience un petit peu à Bruxelles. Voilà, moi j'adore écouter des parcours qui mènent vers des mondes que je ne connais pas. Donc j'espère que vous aimerez écouter ça aussi. J'essaie de me détendre aussi sur le podcast à pas trop monter, par exemple, pas faire de montage au niveau des discussions. C'est vrai que j'en fais un petit peu, parce que j'ai toujours l'impression que, voilà, non, il faudrait que je supprime cette partie de 5 secondes, parce que je me dis, il y a un petit temps mort, ou je sais pas quoi. Mais voilà, je dis ça, et en même temps, je vais être la première personne à prôner le naturel dans les podcasts. Donc voilà, c'est un combat contre moi-même que je fais, et j'essaye petit à petit de lâcher prise un peu sur la surproduction d'un épisode. Non pas qu'il y ait trop de moments chiants en fait dans cet épisode avec Charlie, ça c'était très bien, mais voilà, simplement pour dire que voilà, qu'est-ce qui évolue petit à petit dans le tout, parce que en faisant moins de montage, j'ai l'impression aussi que je vais être obligé à améliorer au niveau de ma façon de conduire un peu la discussion. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à suivre Charlie sur les réseaux sociaux, vous avez les liens dans le descriptif, son Instagram, sa page Facebook. À me suivre également, Areski Sugar, allez sur sugarfree.com, mon site web où vous allez pouvoir voir toutes mes dates de stand-up à Paris, mais aussi tous les autres podcasts que je produis. Abonnez-vous partout, mettez 5 étoiles sur iTunes, voilà, comme d'habitude. Gros bisous à tous et très bonne écoute.
La plupart de ce que j'écoute, c'est des actualités.
Ouais.
Mais j'en écoute beaucoup d'autres de loisirs. Quand je cours, des trucs comme ça.
Ouais.
Je pense que le principal que j'écoute, bah, c'est Joe Rogan Experience.
Ouais.
C'est celui que
c'est
je
le truc des c'est un truc un peu des comiques et des.
Mais vraiment. Mais c'est ce que j'ai entendu. Et j'ai entendu que quelqu'un qui avait dit Joe Rogan, c'est le Oprah Winfrey des mecs.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Non, mais.
Moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est que aussi ça me fait Moi, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien aussi écouter les gens avec lesquels je suis pas forcément d'accord sur plein de trucs. Ouais. Tu vois. Et alors déjà, lui, il en reçoit. Mais même lui, parfois, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, spécialement parce que tu sais, il y a le côté, il est très américain. Tu vois, genre le côté très. Par exemple, pour moi, en tant que Français, le gun control, c'est évident. Genre, n'ayez pas de gun, ça fait du.
Oui.
Il n'y aura jamais de mass shooting si tu n'as pas de gun, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais du coup, c'est intéressant parce que j'ai l'impression de m'affûter sur des possibles arguments que je pourrais avoir avec d'autres personnes.
En fait. Oui, oui.
Alors que, des gens que j'ai autour de moi, j'ai l'impression qu'ils aiment bien écouter juste des podcasts où ils sont juste toujours d'accord avec tout ce qu'ils écoutent, en fait, tu vois. Non, t'es pas.
Si, je pense. Enfin, le truc, c'est que je pense qu'on se prend tellement la tête sur tout et partout. Enfin, Twitter, c'est que ça. Twitter, c'est juste ça. Hein. Twitter, c'est juste. Enfin, je suis pas le premier à le dire, c'est juste des millions de gens qui se gueulent dessus.
C'est clair.
C'est juste ça.
Ouais.
Et je pense que les gens, ils veulent. Enfin, ils veulent quelque chose où il n'y a pas d'ambiguïté, où il n'y a pas vraiment de débat, des trucs comme ça. Après, je pense que si les gens, ils écoutent des podcasts aujourd'hui aussi, je pense qu'ils veulent un fond sonore calme aussi.
Ouais, une recherche d'un truc plus lent, plus long, pas forcément dans des gens qui s'engueulent, quoi. Parce qu'en vrai, n'importe quel débat politique, si tu leur disais non, mais en fait, les gars, on a vraiment 5 heures que pour vous deux.
Ouais.
Ça irait pas dans les tours en mode, tu sais, Mélenchon, mais c'est Jérémy, si tu vois. Ce serait juste, ok, en fait, vous pensez ça. Eh ben, je sais pas, Jamie pour Dallop, tu vois, justement, on cherche les statistiques, quoi.
Ouais, ouais.
Et normalement, pour moi, genre, le vrai journaliste, ce serait ça, c'est tu sors le truc et tu dis, bon, bah, voilà, en fait, c'est ça. Donc déjà, vous avez tort quand vous avez dit que c'était un autre chiffre.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que vous proposez ?
Réagissez.
Ouais, voilà, réagissez. Et ok, sujet suivant, maintenant, bah oui, ça prend une heure par sujet, bah, c'est la vie, quoi.
Oui, bah, justement, c'est quand Joe Rogan l'avait reçu Bernie Sanders.
Ouais.
C'était, pour moi, c'était, ouais, d'accord, Bernie Sanders, il a tout compris. Puisque Joe Rogan, il répétait sans cesse, ouais, les gens, ils ont un petit peu, enfin, tu veux pas faire un débat sur l'avortement avec 5 intervenants en 10 minutes sur CNN, tu vois. C'est impossible.
Surtout, tu sais, il y a ce faux truc qui est ancré dans le cerveau des gens. C'est l'équité, l'égalité du temps de parole.
Ouais.
C'est genre, toi, tu vas avoir 5 minutes pour me dire la Terre est plate. Toi, tu vas avoir 5 minutes pour m'expliquer pourquoi elle est ronde. Et en fait, en vrai, non. Parce que le gars qui doit t'expliquer vraiment comment est la Terre, il y a trop d'années de background de science qui rentrent pas en 5 minutes, en fait.
C'est ça.
Donc, si tu veux, temporellement, c'est pas la même chose. Et cet argument fallacieux de dire, bon, bah, tout le monde a 10 minutes pour exposer son programme, je peux te pitcher le truc, mais en même temps, personne rentre dans les détails, quoi.
Non, mais oui, ouais, c'est ça. Hein. Enfin, et même, enfin, là, vu le nombre de candidats cette année, enfin, tu vois, les démocrates, c'était plus de 20.
Ouais.
Ils avaient, et encore, ils avaient divisé dans les genres de débats de 10, tu vois. Ils avaient 2 minutes de parole pour traiter genre, tous les sujets.
Ouais.
Santé.
Absolument, Et en plus, les sujets qui rapportent des électeurs, quoi.
Ah oui, oui.
Ça ne peut pas te permettre de parler d'un truc.
Trigger bien les gens.
Ouais, ouais. Mais attends, mais toi, du coup, forcément, vu que tu écoutes des podcasts, c'est sûr, tu es bien. Sa vie en politique américaine, en fait.
Ouais.
Mais étant donné que tu bosses à Bruxelles et toutes ces conneries, tu dois être quand même assez fort en politique de l'Union européenne, en fait, tout simplement. Pas trop.
Je dirais que je m'y connais.
Ouais.
Mais sans être un stratégiste non plus, tu vois.
T'es pas un lobbyiste, quoi, mais.
Je suis pas lobbyiste. et encore, j'aurais pu, tu vois.
Ouais.
J'aurais pu.
C'est quoi ton background ? Revenons-en au début.
Ouais. Alors du coup, moi je suis né en Angleterre.
Ouais.
Et du coup, je suis né dans un petit bled qui s'appelle Southampton.
Ok.
Et,
so sorry for you.
Ouais, voilà. Ils sont nuls. Là, ils sont nuls en primaire, je sais. Ils sont nuls. Et du coup, j'ai vécu là-bas pendant 8 ans. Et mes parents, ils se sont dit, c'est quoi, les vacances de Bretagne, c'est sympa.
Donc on va vraiment...
Donc on va vraiment y aller.
Yeah, ok.
Et du coup... à 8 ans, j'arrive en France, pas trop le choix. Après, c'était une très bonne décision, hein, mais c'est juste qu'on m'avait mis là. Et du coup, maintenant, tu t'apprends le français. Et à partir de là, tu vois, je pense que quand j'ai appris une deuxième langue, tu vois, je commençais, comme toute expérience internationale, hein, tu commences à ouvrir tes horizons et apprendre une nouvelle culture et tout. Et fil en aiguille, bah, j'ai fini en ES au lycée. J'ai opté pour la facilité très clairement, en disant que je vais faire les langues parce que du coup, bah, j'ai pris anglais-allemand.
Ok,
Donc du
ouais,
coup.
ça te permettait d'être certain de d'avoir une bonne note en anglais déjà.
C'est ça, une très bonne note en anglais. Et du coup, bah, j'étais tranquille en LEA. Et à ce moment-là.
Mais qu'est-ce que tu voulais faire en fait à ce moment-là dans ta life? Non,
Je
tu voulais
savais
juste.
pas. Je savais pas, j'avais pas vraiment mon but défini dans la vie, mais je savais que je voulais genre au moins réussir, tu vois, dans le sens où je voulais avoir un boulot avec un certain prestige et un salaire où j'allais être bien, tu
Ok,
vois.
ça
Mais
c'était un truc de donné par tes parents un peu le côté, tu sais, tu dois être safe niveau salaire,
ouais.
safe niveau. Ouais.
Ouais, bah c'est vraiment la sécurité. Après, ils m'ont pas poussé à l'excellence non plus, tu vois. Mes parents, ils ont, enfin, moi et ma sœur, ils nous ont fait vachement confiance parce que du coup, enfin, ils nous disaient jamais, ouais, bah c'est tout, genre, j'ai jamais eu d'avertissement parce que du coup, ils savaient qu'on allait réussir, parce qu'on n'avait pas le choix, tu vois. Parce que sinon, bah, on savait qu'on allait dans la merde.
Non, mais c'est important parce que c'est pas tous les parents qui font comprendre que t'es dans la merde. Si t'es pas, tu vois
Ouais.
ce que
Ouais. Mais je pense que nous, on savait, enfin, disons que dans la famille, on avait des influences qui me disaient, ah ouais, c'est comme ça qu'on finit si on rate nos
Ah,
études.
ok, d'accord, ok,
Donc,
oui. Donc il y
on
avait
a.
un peu les warnings. Merde.
Ouais.
Ouais, ok.
Et donc, du coup, on savait, on avait un petit peu, ouais, un preview de ce qui se passait si ça se passait mal. Mais après, du coup, mes parents, ils m'avaient toujours dit, bah, tu sais, enfin, il faut être safe et tout. Et je pense que ça rentre un petit peu dans l'humour aussi, enfin. Dans le sens où, après on va y venir, hein, mais dans le sens où je sais pas si je me jetterai là-dedans à cause de ça, j'ai
Oui,
toujours un
t'as
petit peu
pas,
cette.
c'est pas ton truc primaire en fait,
Ouais,
d'être. Parce que pourtant, c'était un truc qui t'attirait toi, faire de l'humour.
ouais, mais ça aussi c'est un truc qui m'arrivait par hasard et c'est arrivé dans mes études, en fait, finalement, puisque quand j'avais en langue, il y avait un talent show qui était organisé par ma fac,
Ouais.
organisé par le LLCE, donc du coup c'était purement anglais.
D'accord.
Et ma sœur qui avait chanté lors du talent show, qui est une très bonne chanteuse, tu vois, moi je me suis dit, je veux faire un truc. Moi aussi je veux avoir un talent. Moi aussi je veux faire un truc, tu vois. Donc du coup, je me lance la première année. Et en fait, dans ma vie, enfin, j'ai vraiment genre puisé un petit peu partout. Genre, j'ai fait un petit peu de cinéma, j'ai tourné quelques films, tu vois, quand j'étais gamin. J'ai aimé la musique, mais jamais à 100%, ou genre j'étais
Ouais.
un expert, ou c'était un vrai hobby, tu vois. Et du coup, je me suis dit, la première édition de une chose, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais faire du rap.
D'accord.
Tu vois, moi qui fais du
Ouais,
rap.
bien sûr, tu t'es influencé par Eminem, tu t'es dit ça y
Exactement, genre, j'avais le background d'Eminem, Trailer Park et tout.
est. Trailer Park de Bretagne.
Bah, Trailer Park de Bretagne. Et du coup, bah, j'ai fait du Macklemore, très clairement, parce que j'avais pas prendre de risque et j'ai
Ouais.
fait un truc hyper gênant avec un gros drapeau irlandais. C'était. Donc, du coup, c'était n'importe
À quel
quoi.
âge ça?
Oh, j'avais 19 ans, 18-19
D'accord.
ans.
Juste après le bac, justement, quand t'as commencé tes trucs, quoi,
Ça,
non?
c'était quand j'étais en L1. Ouais,
Ouais.
donc juste après le bac, quoi. Juste après que genre, je devenais adulte, entre guillemets, tu vois. C'est la période où tu dis, ouais, putain, je suis débutant, je suis responsable, tu vois.
Ouais,
Je sais faire
soi-disant.
mes courses. Alors qu'en
Ouais, alors
fait,
qu'en fait,
rien du tout. Et genre, moi, quand je pense à moi, à 10 minutes du truc, je dis, con, putain!
ouais. Bien sûr. Non,
T'es
mais
la
bien
poutre.
entendu, mais tu n'es pas un être humain avant 25 ans, de toute façon,
Ah,
donc.
pas du tout. Moi, je me suis toujours pas rendu. Hein. Très clairement. Et du coup, l'année suivante, je me suis dit, bon, le rap, on va peut-être laisser tomber.
Ouais.
Et finalement, enfin, je sais que ça fait vraiment tous les mecs qui disent le mot, ils disent ça. Je savais que je faisais trop bien rire mes potes. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi
Ouais.
pas le faire sur scène?
Ouais.
En fait, vraiment, c'était ça. Tu vois, j'avais quelques histoires drôles d'être un mec anglais en France.
Ouais.
Et c'était vraiment genre fait pour ce genre de public enfin parce que j'étais en Pays de la Loire à l'époque parce que j'ai fait mes études à Angers
Ouais.
donc des trucs enfin comme des trucs de campagnard un petit peu et du coup je me suis dit j'ai quelques blagues là-dessus et en fait j'ai raconté ça sur scène et en fait j'avais pas mis l'étiquette je m'étais pas dit je faisais du stand-up
Ouais.
j'ai dit ah ouais juste des trucs que je racontais sur scène pour faire drôle quoi et en fait c'est à partir de là que j'ai vu que le puzzle un petit peu se dessinait parce que bon, quand j'étais petit, je lisais pas, je lisais des comics,
Ouais.
parce que j'ai la flemme de lire quoi. Très rarement. Et en Angleterre, il y a une culture de stand-up qui est vraiment, vraiment très forte.
Oui, beaucoup plus qu'ici où c'était même du coup. Enfin, tout le monde dit que c'est naissant même maintenant, mais clairement, ça veut dire que quand t'as commencé, c'était encore plus quoi.
Ouais, bah en fait, moi ce qui m'a inspiré le plus, c'était les samedis soirs sur BBC One. T'avais une émission qui s'appelle Live at the Apollo.
Ouais.
Tu connais?
Ouais.
Et vraiment.
Oui, tu voyais les, bah, les vrais headliners de là-bas, quoi.
Oui, enfin, les headliners, les headliners d'un Comedy Club. C'était
oui,
pas
oui.
Genre.
Oui, c'est pas.
Gad Elmaleh qui faisait son truc, tu vois. Ouais. C'était vraiment genre. Alors lui, il est bon, apparemment, on voulait faire phare 15 minutes sur la télé, tu vois. Et tous les samedis soirs, t'avais ça.
Ouais.
Aussi régulièrement que le foot. Donc tu voyais des inspirations et tout. Et finalement, bah. Ma famille kiffe Michael McIntyre aussi, je sais pas si tu connais.
Ah, mais... trop bien, Michael McIntyre.
Ouais. Lui, c'est le gars d'anglais, tu vois.
Ouais.
Et du coup, bah, j'avais beaucoup d'inspiration pour lui. Et l'année suivante, suite au talent show, bah, j'avais fait du stand-up encore une fois. Et là, à cette époque-là, je faisais ma licence à l'EY. Ensuite, j'étais parti en Allemagne. Et quand je faisais ma licence, j'étais un peu au mode ouais, homme d'affaires international. Un mec, genre, tu vois, genre, ah oui, ah, 35 centimes le kilo. Je te le fais à 30 genre, tu vois.
Mais pourquoi, c'est-à-dire?
Je sais pas, je voulais être le mec, tu vois.
Ouais.
Je voulais être le mec en costard.
Parce que, attends, là, tu sais quoi, ta licence quand tu pars en Allemagne, c'est genre du business, c'est quoi?
C'est du business.
C'est du business, ok.
C'est du business dur parce que je connaissais un petit peu des gens qui faisaient ça et j'avais déjà taffé.
Ok.
Dans un abattoir où je vendais de la viande à l'étranger.
D'accord. Donc, en gros, ouais, tu voulais être le gars qui Gordon Gekko, qui sort le truc, qui fait genre vendre et tout. Immédiatement.
Ouais. Être le mec un petit peu, ouais, le prix, on va devoir le monter.
Ouais.
Je te le dis, Klaus, ça va être 40 centimes.
Ok.
T'es obligé de l'accepter, sinon on va se prendre la gueule.
Tiens, c'est marrant, parce qu'il y a ce désir à un certain moment, bah ouais, comme tu disais, d'être le vrai adulte. Du coup, on doit posturer comme si on était un adulte.
Ah, mais oui, je voulais être Wolf de Wall Street, tu vois.
Ouais.
Et sauf que l'année en Allemagne, bah, j'avais travaillé en mairie. J'ai fait un petit programme d'ambassadeur franco-allemand, là. Et en rencontrant des gens un petit peu de divers horizons, tu vois, de la politique et tout, que je me suis dit, ah ouais, ok, j'aime bien, vraiment bien les relations internationales et puis les affaires publiques.
Okay.
Et j'ai pris goût à l'élection présidentielle de 2017.
D'accord.
Et ensuite, bah, un peu à la politique en général. Et ensuite, bah, je me suis spécialisé là-dedans.
D'accord. D'abord. Donc, qu'est-ce qui a fait que, du coup, le moment où tu voulais être à Wall Street avec des téléphones,
ouais.
C'est juste vraiment le fait de pouvoir parler avec des gens, des trucs comme ça, t'as shifté, quoi.
Ouais, je pense que le shift a été que moi, je savais tout au fond de moi que je voulais jamais être dans le privé et vendre des trucs.
Ah, ok. Donc moi, finalement, genre 180, quoi.
Enfin, ouais, 180, mais après, c'est un truc qui me plaisait, mais qui me passionnait pas.
D'accord, ok. Alors que là, il y avait de la passion, il y a de la passion à genre gérer des choses avec d'autres êtres humains, quoi.
Ça va être vraiment cringy ce que je vais dire, mais créer du lien. Moi, ça me passionne vraiment.
Non, mais je veux dire rencontrer des gens.
Non, mais quand tu vois les échanges interculturels qui se passent entre les gens, deux personnes de cultures totalement différentes qui échangent et qui trouvent une base commune.
Ouais.
Moi, ça m'a.
Non, mais ben, on est obligé d'accepter ce que tu dis parce que tu l'as vraiment vécu, quoi.
Non, mais oui. Et je pense que ce qui a vraiment mis la cerise sur le gâteau là-dessus, et je pense que c'est ça en quoi je forme ma vocation, c'est le Brexit. Fallait qu'on en parle à RSK, je suis désolé.
Le Brexit.
Le B-word allait arriver. C'est le Brexit. C'est la chose qui a le divisé le plus mon pays, ma famille, ma société, tout. Et du coup, je me suis dit, à partir de là où je voyais qu'il y avait un monde qui partait en couille de droite à gauche, que je voulais... En quelque sorte, mettre les gens en lien et puis qu'on parle plus, quoi. Et c'est pour ça que je kiffe les podcasts aussi.
Ouais.
Parce qu'on parle. Et surtout Joe Rogan, parce que du coup, même les gens qui se mettent pas d'accord, on peut quand même débattre.
Et reconnaître l'humanité dans l'autre, quoi. En fait, même s'il y a des opinions différentes.
Ouais, même s'il y a des connards, tu vois. Mais agree to disagree.
C'est marrant parce que nous, la vision française du Brexit, enfin, on est assez détaché, tu sais. On se dit, bon, on veut bien repartir sur le concret des conséquences, tu sais. Et le concret des conséquences, on est là genre, ok, ça va être genre un poil plus chiant pour aller à Londres, mais encore pas trop, tu vois. On n'est pas vraiment dans le détail. Enfin, tout le monde en parle aux infos, mais jamais personne ne dit vraiment les trucs. Mais effectivement, quand on parle à des Anglais, là, par contre, c'est un autre monde, quoi. C'est vraiment le tremblement de terre, en fait.
C'est le sujet le plus sensible. Et c'est la tornade la plus la plus violente qui s'est passée en Angleterre depuis genre, ouais. des décennies, quoi. Franchement, c'est un traumatisme.
Non, mais t'es pas le premier à me dire que dans ma famille, on s'est déchiré, entre guillemets, non, mais juste parce qu'on n'a pas les mêmes. On n'est pas d'accord sur le oui ou non, quoi.
Bah oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est. Et c'est encore plus compliqué pour nous, puisque non seulement c'est qu'on n'est pas d'accord, mais c'est que nous, on vit en France, et du coup, quand des membres de la famille votent pour un système où nous, on devrait revenir.
Et oui.
C'est un petit peu genre Nicky Vaudouille en France, quoi.
Ouais. Oui, c'est genre vraiment là pour le coup, il y a un vrai impact total sur ta vie quotidienne, quoi.
Ah, mais oui. tu vois, genre. Enfin, moi, il y a des membres de la famille, surtout en France, tu vois. Il n'en est plus. Il n'en est plus parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Après, je ne te dis pas qu'on est persécuté non plus.
Oui.
Mais c'est juste qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Oui, vous n'êtes pas ultra safe, quoi, par rapport aux décisions.
Ah, non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est...
Et ça, du coup, quand c'est arrivé, tu t'es dit, ouais, non, en fait, il y a. Ouais, genre, épiphanie. Il faut que je sois dans ce cercle où ça se décide, en fait, ou quoi.
Ouais, le cercle où ça se. Après, franchement. Il y a une évolution un petit peu de mes envies, puisque au moment où je me suis intéressé à la politique et tout, je me suis dit, ah oui, il y a des choses à faire, dans le sens où je vais participer au débat, je vais faire partie du débat, être l'un des participants, genre dans le sens où le pour ou le contre. Et c'est quand quand je suis en France, j'ai commencé à me mettre dans la peau de la politique, je m'étais engagé dans un parti et je faisais des simulations de politique aussi. Et en fait, c'est là que j'ai remarqué. Enfin, on teste des trucs dans la vie et on les pousse à une certaine limite. Et là, on se dit, ah ouais, c'est trop, et on revient, tu vois.
Oui, oui,
et
ouais.
Je pense que dans la politique, j'avais pris goût au pouvoir. Mais vraiment, je sais.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pouvais tester quand t'étais dans le.
Oh mec, j'avais fait une simulation du Parlement, je gueulais sur les gens. C'est génial quand tu gueules sur les gens.
Ah, ok, vous faisiez vraiment genre la fausse assemblée, quoi.
Ah oui, j'étais le leader du parti de l'extrême gauche.
Ouais.
Et je disais, vous êtes tous des enculés capitalistes. Franchement, allez, niquez vos mères et tout. Et du coup, je faisais le mec. Et par exemple, quand il y avait des négociations sur des amendements, un truc comme ça, ouais. Et quand je disais, si vous votez pas pour nous, genre, on va vous défoncer. Il y avait une meuf qui avait pas voté pour nous et je l'ai fait pleurer. Et franchement.
Dans une simulation,
dans
quoi.
Dans une simulation à l'école. Et du coup, bah, tu vois, à ce moment-là, moi, je me suis dit, bah, je kiffe, tu vois, parce que du coup, bah, j'ai ce pouvoir sur quelqu'un, genre, de dire oui ou non, et ça faisait vraiment très House of Cards, tu vois.
Oui, oui.
J'ai vu que non seulement il y avait cette dimension du goût de pouvoir et d'influence sur les choses, mais aussi, je voyais que ça prenait de plus en plus de temps et de fatigue sur moi-même. Donc. Tout ça pour dire que finalement j'ai pris goût au pouvoir et après je me suis dit que c'était malsain et maintenant c'est plus pour la vocation que j'aime ça. D'accord. C'est plus pour la vocation et créer un dialogue et vraiment genre juste qu'on parle quoi parce que je pense que ce qui est vraiment toxique dans tout ça c'est la polarisation tu vois.
Ouais c'est... mais du coup là parce que là tu bosses pour Politico.
Pas encore. Donc je peux dire ce que je veux.
Ouais, mais janvier, enfin déjà cet été, t'as bossé pour Politico.
Ouais, un journal numérique.
Ouais, un journal numérique, j'allais dire, ouais, online. Est-ce que pour toi, ce serait un moyen de faire vraiment de la politique, c'est-à-dire qu'après, tu sais pas, tu t'y peut-être intégré, genre le staff d'un politique que t'aimes bien ou des choses comme ça,
mm-hmm.
Ou c'est où tu te dis, non, en fait, je pense que ma place, elle est justement dans le fait de relayer les informations, etc.
Alors. Je tiens juste à préciser que quand je suis à Politico, je suis pas un journaliste. Je travaille dans l'événementiel, donc du coup, c'est les événements qu'ils organisent, qu'ils mettent en place. Et
Ah ouais, donc t'es vraiment dans créer du lien.
Créer du lien.
Putain, mais c'est ouf, quoi.
Ouais. Ouais, non, mais vraiment. Donc j'ai vu mon rêve.
En fait, tu veux rencontrer des gens, quoi, depuis le début.
Après, quand je te dirai le lien, le type d'événement dont il s'agit, tu vois, ça perd un petit peu de cette valeur, tu vois, un peu plus. Parce que.
Non, j'organise des Skype.
Ouais, j'organise des Skype. J'organise des.
Alors, des webcams devant des gens.
Il y a un Discord Politico avec tous les députés.
Et... Oui, c'est ça, j'organise un chat. En fait, je crée du lien, mais sur Facebook, en fait. Je fais un groupe.
J'organise des tournois Fortnite entre les lobbyistes et les politiques.
Et du coup, bah ouais, ça polarise moins, du coup.
Ah, bah ça polarise moins, tu sais, franchement, petit Fortnite, Battle Royale, et puis c'est bon, tout est réglé, tu vois.
Ah, bah oui.
Sortez le tel débat. Non, mais du coup, je m'étais intéressé aux affaires européennes parce que justement, ironiquement, vu le Brexit, tu vois, parce que l'Union européenne n'est pas parfaite, hein. Genre, je le dis direct, moi j'ai envie d'y rester, tu vois, mais c'est pas parfait, il y a des choses à changer, il y a beaucoup de choses à changer même. Mais j'avais un peu l'esprit ouvert en rentrant dans cette formation et je savais que, enfin, Bruxelles m'attirait, que la vie là-bas, je kiffais aussi. Et que j'allais tomber sur, enfin, j'allais bien voir, tu vois.
Ouais.
J'avais pas d'objectif précis. Et si jamais je tombais sur un truc qui me plaisait pas, procès par élimination, je raye de la liste
Oui.
juste quelque chose qui m'intéresse et je prends le dernier qui reste, quoi. Donc du coup, j'avais déjà des contacts chez Politico et puisque j'avais fait un truc pour les jeunes là-bas, c'était pour promouvoir les études européennes, et enfin c'était un salon, bref. Et moi, je kiffe les Politico de toute manière, enfin, voilà. J'ai décroché un stage dans l'événementiel où justement ils font des événements sur des thèmes précis, genre par exemple sur la cybersécurité ou des trucs comme ça. Et ils me mettent des députés sur la scène et tout.
Non, mais en fait, tu sais, c'est comme ça que tu deviens un politique après, tu sais, parce que tu te crées un réseau de ouf.
Ouais, mec, tu
Là,
verrais.
cybersécurité et tout ça, tu vas finir député.
Non, mais après, je sais pas ce qui me réserve, tu vois, j'ai pas d'objectif précis. Encore une fois, être égrégé, moi je fais ce qui me kiffe et puis après ouais, je vais sur un truc, tu vois. J'ai pas d'objectif précis, tu vois, moi j'ai juste envie de kiffer et puis de créer du lien et puis. Et voilà, Politico, j'avais kiffé l'ambiance là-bas, les collègues qui sont devenus mes amis.
Oui, Tico, raconte-moi, c'est un peu. Alors, enfin, je sais pas, là pour le coup, tu vois, je pourrais même pas dire s'il y a
Ouais.
une obédience plus
Il n'y a pas.
droit. Enfin, oui, mais
Il n'y a
c'est ce
pas
que
de
tous les
limite, ouais.
journaux vont te dire.
Ouais,
Genre,
c'est vrai.
non, 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 nous on est
C'est
vraiment
vrai.
ultra impartiaux.
Ouais,
D
non.
10 minutes,
Alors en fait, c'est pour ça qu'ils sont assez innovants, Politico, parce que ils avaient commencé aux États-Unis avec deux ex-journalistes du Wall Street Journal, ou Washington Post, je ne me souviens plus. Jamie. Pas si je raconte pas de la merde. Je sais pas. Bref, ça
Ouais.
l'a des deux. Et du coup, ils avaient monté un petit peu leur truc, et ils voulaient un truc numérique, parce qu'ils savaient, enfin, c'est le défi maintenant pour les journaux, c'est
Oui, c'est de
comment est-ce qu'on fait pour
survivre,
survivre? Et pour l'instant, le modèle, c'est on fait du pétaclic et des pubs. C'est
ouais.
tout. Et une.
Ouais. Eux, ils sont sur abonnement, du coup, Politico,
Alors.
comme Mediapart ou pas trop.
Alors, leur système d'abonnement est assez compliqué. En fait, si tu veux, tu as le contenu gratuit,
Ouais.
qui lui, enfin, il génère un petit peu de revenus sur les pubs. Mais ils ont un système d'abonnement qui s'appelle Politico Pro. Et en fait. Par exemple, les lobbyistes à Bruxelles et en France et partout, en fait, la plupart de leur taf, c'est de faire de la veille. Donc ça veut dire qu'ils vont dire à leurs clients, voilà ce qui s'est passé à Bruxelles le jour J sur tel sujet dans la santé ou je sais pas quoi. Et en fait, Politico, ils font un petit peu la même chose, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, ils font Politico Pro et t'as des packages selon le domaine stratégique qui t'intéresse. Donc disons, t'es Google,
Ouais.
tu vas prendre
Ne
Politico
prends la
Pro.
tech, quoi.
Ouais, Politico Pro Tech, ça
Ouais.
existe.
Ouais.
Et du coup, t'as des journalistes qui vont.
Te dire quelles sont là les prochaines lois qui risquent de passer ou des conneries comme
Ouais,
ça
ou des
qui
trucs, genre
peuvent
des
influer
rumeurs.
sur toi. Ouais, ou des rues.
Des rumeurs, des trucs comme ça, tu
Ouais.
vois.
En fait, c'est du. Ouais, non, non, ouais, ok. C'est le côté gathering information du lobbyiste, quoi. C'est en gros, c'est genre, on va juste aspirer tous les trucs qui se disent dans son domaine et te les fournir, quoi.
Ouais, après, c'est pas de la vie personnelle. Ça veut dire qu'ils mettent ça dans une newsletter et tu t'abonnes au newsletter
Oui, après, oui,
et
libre à toi
puis.
de croire ou pas
Ah
croire.
oui, mais vraiment, enfin, moi en tant que stagiaire là-bas, enfin, j'étais abonné automatiquement et je peux te dire que les updates, genre, j'en avais enfin, facilement 300 mails par jour, un truc comme ça.
Ah oui,
Parce
d'accord,
que j'étais
donc
abonné à toutes les
oui.
newsletters aussi. Mais le truc, c'est que, enfin, eux, leur principe, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Mets-le au moins en trois paragraphes pour que ce soit
Oui,
compréhensible et ça part.
d'accord.
Donc du coup, enfin, au moins t'étais vraiment genre, t'étais vraiment genre au courant de ce qui se passait, genre au fur et à mesure de la journée et puis voilà quoi. Donc du coup, c'était vraiment des gros, comme je t'ai dit, Google qui s'intéresse à ça, c'est des gros contrats. Hein.
Donc là, qu'est-ce que, ben, vu que tu bosses là-dans, mais aussi dans le côté événementiel, qui est-ce que tu rencontres en fait là-bas? Tu rencontres des, ben, j'imagine d'autres journalistes déjà de base,
Ouais.
mais des gens peut-être, enfin, des hommes politiques quoi,
Ah
forcément, des
oui, et des
députés
femmes.
et des femmes politiques, bien sûr, bien sûr. Alors c'est marrant parce que du coup tu parles bien allemand?
aussi. Je parle couramment allemand.
Tu parles couramment allemand. Ouais. Du coup, ça veut dire que, ouais, toi, tu as trois. Enfin, oui, j'allais dire trois pays, non, parce qu'après, tous les autres qui parlent anglais, tu peux leur communiquer avec eux, quoi. Mais en gros, tu as les trucs forts de l'Union européenne où tu surfes sans problème, quoi, en fait.
Je dirais pas sans problème avec l'allemand, puisque ça rouille un petit peu.
Ça rouille vite, hein, l'allemand.
Ouais, ça rouille vite. Hein. Mais, ouais. Mais du coup, enfin, j'essaie quand même de, d'interagir avec des Allemands de temps en temps, tu vois. Et aussi, si j'ai des petits cours de Duolingo, j'essaie de retenir ça aussi.
Ouais.
Mais ouais, j'ai gardé ce côté-là et ça m'aide vachement. Mais à Bruxelles, de toute façon, c'est anglais-français. Et ils font le mélange un petit peu des deux, tu sais. Ils vont. Donc en fait, le truc, c'est que vu que tu sais que tout le monde parle au moins les deux langues.
Oui. Ouais, donc ça va.
C'est ce genre de personnage insupportable qui va faire un franglais tout le temps.
Oui.
Parce qu'en fait,
tu sais que tout le monde. Bienvenue dans ce podcast.
Non, mais vraiment. Mais oui.
On peut parler. C'est ça le problème, franchement. C'est comme entre nous, quand les stand-uppers qui sont français, ouais, mais qui jouent aussi sur la scène anglaise. Du coup, on se dit, on peut totalement se décontracter, se décomplexer à rajouter des mots en anglais tout le temps.
Non, mais c'est vraiment ça, hein, c'est ça. Ah oui, donc le setup.
Oui, mais oui.
Ouais, et
pour moi, ça me semble une phrase normale.
Ouais, genre. Oh, moi, j'ai un tag pour ta blague. Quoi? Un tag? Non, mais ouais, du coup, tu vois, genre, je kiffe travailler en Europe et je vais y rester, quoi.
Ouais.
Et Politico, c'est le kiff et.
Je sais bien que, bon, là, t'es dans le mode, bon, je fais ce dont j'ai envie, là, en ce moment, j'ai envie de faire ça. Mais, admettons, genre, claquement de doigts, tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu ferais quoi? Est-ce que, genre, vraiment, si on te dit, tu peux rentrer dans le, je sais pas, tu peux être chef de cabinet de Boris Johnson.
Oh, mec.
je sais pas, tu vois, je travaille dans un ministère ou alors faire autre chose dans Politico ou un truc comme ça, tu ferais quoi? Tu choisirais quoi?
Alors, ça dépend où là, enfin, tu vois, parce que l'aspiration, c'est d'avoir le plus d'influence possible dans ce que tu veux acquérir, tu vois. Et là où, enfin, c'est chef d'État, hein. Donc c'est ça que tu veux faire pour obtenir ce que tu veux. Donc faire du changement, des trucs comme ça. Après, si tu me demandes dans un sens général de ce que je veux faire de ma vie, moi franchement, je te dis 100% l'humour.
Ah, l'humour, ah ouais.
Direct. Okay. C'est le grand kiff. Et tu vois, genre, toi et moi, et comme n'importe quel stand-upper qu'on dit, enfin. Toi aussi, on t'a posé la question. Donc, genre, des potes qui viennent te voir et tout, ils voient qu'en fait, t'es pas une merde. Et qu'ils disent, ah non, mais du coup, Reski, c'est vraiment trop cool. Ah ouais, donc du coup. Donc, si jamais tu perces, est-ce que.
Oui, qu'est-ce que. Oui,
est-ce que tu poursuis ça ou pas?
Ouais, alors, c'est intéressant parce que, vu que toi, t'es dans un truc où tu recherches aussi un endroit que tu pourrais encore plus kiffer dans ce monde-là.
Ouais.
Je me disais, c'est peut-être un monde du coup que tu kiffes plus que le monde de l'humour. Alors qu'en fait, pas forcément quoi. Parce que moi, je me dis, tu vois, enfin, moi ça y est, je suis dentiste quoi. Il y a pas genre, enfin, j'ai déjà une semi-spécialité, mais genre si je me spécialisais encore plus en autre chose. Mais enfin, mais là, je suis pas du tout dans ce délire-là justement, parce qu'au contraire, je voudrais presque m'en éloigner un peu.
Ouais.
Mais comme toi, t'es encore, tu vois, un peu excité par le côté. Politico, Union Européenne, je me dis, ah, mais ouais, il ressent encore de l'enthousiasme, en fait, pour ce qui n'est pas l'humour, en fait.
Ah donc, oui, oui.
C'est juste que t'es une personne plus enthousiaste que moi, en fait, c'est peut-être ça.
Peut-être, hein, peut-être. Bah, en fait, ouais, c'est assez intéressant comme question, puisque je sais que dans les deux domaines, tu vois, je sais qu'il y a une perspective un petit peu d'évolution dans le sens où, genre, je suis confiant dans mes capacités de faire, pour l'instant, en tant que débutant, parce que je débute dans les deux, hein,
ouais.
Autant dans l'humour que dans le monde professionnel.
Ouais,
Et je sais que, enfin, par exemple, enfin, des idées que je peux avoir peuvent plaire à des gens dans l'humour et dans la politique. Et je pense que qu'il y a pas je verrais bien où ça me mène et je sais que c'est vraiment con de dire ça mais je pense que je suivrai un petit peu mon instinct dans le sens où est-ce que mon message qui est ok avec ma moralité tu vois peut le mieux se faire entendre Et si c'est ce poste-là, tu vois.
Donc, c'est-à-dire que toi, niveau stand-up, tu seras toujours un mec qui a quelque chose à dire, quoi.
Ouais, voilà. Voilà, c'est ça.
Donc, ça veut dire que tu vas pas justement être dans le full Michael McIntyre qui va faire des blagues sur les dents de sagesse.
Voilà. Non, mais c'est ça. Hein.
Ouais.
Non, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai ces deux voix, tu vois.
Mm. Non, mais c'est intéressant, mais parce que littéralement, je crois que je sais plus quand. C'était dans quel... Ouais, je vais faire de la promo pour un autre podcast.
Vas-y. Fais donc.
C'était dans un podcast de ciné que je faisais fin de séance où on parlait du Joker, en fait.
Uh-huh.
Et en vrai, je pense que c'est un film où je me suis dit, mais je crois que si ça se trouve, tu ne veux pas faire de l'humour, tu veux faire de la politique, en fait. Mais parce que je me suis dit, oui, il y a des trucs à dire. Alors très souvent, justement, en tant que... Tu sais que quand tu rentres dans la politique politicienne ou juste... Le game, c'est de faire, de créer un following, quoi.
Ouais, ouais.
Mais c'est un peu la même chose d'ailleurs en humour.
Ouais,
c'est
ouais.
Tu c'est utilises très justement l'humour pour aussi paraître plus sympathique, justement.
Mm-hmm.
Mais oui, moi je me dis, j'ai des choses, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord dans le monde qui m'entoure. J'ai envie d'en parler clairement pour le. Enfin, je le fais en humour, mais il y a toujours ce côté aussi ultra cynique que j'ai, qui de toute façon, ça changera rien. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que
oui.
Alors que si je voulais changer un truc, mais est-ce que je pourrais changer un truc si j'étais en mode genre bah écoutez, je pense qu'il faudrait avoir telle loi qui permettrait d'avoir ceci ou cela, je sais pas.
Ouais.
Donc toi t'es dans justement t'es dans l'attente en mode je vais peser l'impact que ma parole qu'une parole politicienne ou qu'une parole humoristique peut avoir et on verra quoi.
Moi, je sens que ces deux voix, je suis sur ces deux voix pour l'instant, et je vais les poursuivre jusqu'à ce qu'on a une qui soit plus forte que l'autre.
Ouais.
De toute façon, je vais forcément devoir privilégier un à l'autre, parce que imagine si je suis député, je ne peux pas forcément faire un stand-up et
cracher sur les Allemands. Cela dit, tu vois, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que imagine toute campagne pour un député, bah, c'est ton special, quoi. Tous les soirs, tu fais une heure. Tu vois ?
C'est ça.
Tu fais une heure.
Ouais,
avec les foules ou alors justement toi qui aimes bien parler aux gens en mode city hall meeting là tu sais où t'es comme ça et tu dis bon je vais prendre vos questions on y va quoi.
Mais ce qui est assez drôle c'est que j'ai poursuivi le stand-up comme distraction comme hobby parce qu'en fait le truc c'est que moi j'ai vraiment commencé à poursuivre le stand-up quand j'étais en stage à Malte. Et j'ai réalisé sur ce coup-là que la carrière qui m'attendait, elle est une carrière qui allait bouffer une grande partie de ma vie et qui allait être une grande partie de ma personnalité aussi.
Oui.
Et je voulais pas être le mec qui bosse.
Ouais.
Tu vois ?
Ouais, parce que ouais. Non, mais je comprends totalement. Parce qu'en plus, ouais, tous ces... On les a probablement aussi autour de toi, quoi.
Ouais.
Des gens, ouais, qui deviennent leur travail, en fait.
Ouais.
Et non, j'ai pas le temps d'en répondre. Alors que moi, je me dis, là... Il se trouve que je suis quand même assez occupé en ce moment, donc j'ai pas trop le temps de beaucoup de choses. Mais je me dis, ouais, mais en même temps, je fais plusieurs choses.
Ouais.
Je pense qu'il y aurait rien de pire que genre d'être monomaniaque, d'être que sur un seul truc, où tu peux pas justement avoir un autre type de motivation, un autre type d'esprit ou d'autres types de gens aussi à qui parler. Mmh. Tu vois, c'est vrai que voilà, moi au moins je me dis je peux parler à des dentistes et à des humoristes.
Ouais.
Et en vrai, moi, t'as pas, ça me fait du bien de, tu vois, d'avoir une soirée où il n'y a pas d'humoriste, quoi.
Ouais,
tu
ouais.
Tu vois, ouais. Et vice versa. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des jobs qui demandent une implication pure et dure et même. L'embranchement autre que tu peux avoir, ça va être par exemple être militant.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Donc en gros, toute ta vie, elle est dans la politique. C'est-à-dire que en fait, t'es bouffé, quoi.
Après, il y a des gens qui aiment ça.
Oui, mais ils vont kiffer.
Ouais, ils vont kiffer.
Mais en vrai, moi, j'ai l'impression que si on te saupoudre pas d'un autre type de pensée, c'est mauvais pour toi, quoi.
Ouais, moi, je pense que c'est... Enfin, moi, je voulais pas être le mec qui allait vivre, respirer, dormir de la politique.
Quoi. Ouais, c'est ça.
Et je voulais un autre truc où je pouvais être... Enfin, par exemple, disons... tu sais, quand je monte sur scène le soir, la journée, j'étais en train de parler de, je sais pas moi, de la... Le paquet énergie-climat pour 2030 et comment on va lutter contre ça dans le cadre d'une simulation où on va représenter Total, quoi.
Ouais.
Et donc c'est vraiment hyper intense, et puis on parle de choses sérieuses et tout. Et moi, quand je rentre sur scène, genre, c'est un changement total de personnage et de cadre, tu vois, où je peux vraiment prendre un break. C'est le break le plus clinch que je peux avoir.
Ouais.
Donc du coup, bah, je me suis jeté dans le stand-up, enfin, dans l'envie de créer, d'avoir quelque chose où je pouvais être quelqu'un d'autre que quelqu'un qui fait de la politique. Et ou
Parce que
qui.
ouais, tu l'as pris comme un hobby, mais c'est marrant parce que c'est pas un hobby facile en fait. Tu vois
Pas
ce
du
que je veux
tout,
dire? Parce
non.
que c'est pas comme si tu disais je vais faire de la danse de salon
Ouais.
où tu te dis ouais bon écoute ouais enfin je sais pas pour l'instant je suis un peu nul mais je m'améliore petit à petit.
Tu vas faire ça.
Enfin oui enfin tu enfin c'est littéralement ce qui se passe sauf que pendant que t'es nul ça fait vraiment chier quoi.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être un couple parmi 15 couples qui font du foxtrot.
Ouais.
Et que t'es un peu nul, tout le monde s'en fout en fait.
Mmh.
Quand tu viens faire tes 5 minutes, tes 10 minutes et que t'es nul, bah, tu passes 10 minutes à chier quoi.
Ouais, c'est ça. Non mais
Enfin,
c'est
10
que
minutes à
toi.
chier sur scène.
Oui.
Et après, c'est pendant 2 heures, t'es là, tu fais putain, pourquoi j'ai fait cette vanne qui
Non mais
était
vraiment. Non mais vraiment. Et puis le pire avec la, en reprenant la métaphore de la danse, tu vois, c'est que quand tu prends un élément de la danse, tu sais que tu vas danser toutes les semaines. Donc on va te laisser rentrer sur la piste, même si t'es nul. Donc même si t'es nul, tu peux quand même aller sur.
Alors que du stand-up,
Alors que
il faut,
stand-up, il
être
faut que tu sois bon.
programmé et ouais, il faut être bon, il faut être programmé pour.
Pour en faire souvent.
Il faut être programmé pour être bon, mais il faut être bon aussi pour être programmé. C'est un peu
Non.
le catch-22 du truc.
Oui.
Mais en même temps, toi, t'aimes bien les trucs qui te font galérer ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as tendance à aller rechercher des disciplines qui sont ou en gros, bah, je sais pas, il faut que tu travailles, quoi, ou des choses. Quoi que tu disais que tu choisissais la facilité
Ouais,
quand t'étais.
ouais,
Après, moi, c'est pareil, Non, mais vraiment, c'est ça qui est bizarre.
ouais.
Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu similaire là-dessus.
Ouais.
Il y a d'autres potes qui vont être plus constants dans rechercher des choses difficiles et où ils sont nuls au début et ils veulent être meilleurs après. Après, c'est peut-être une question d'âge, ou moi, effectivement, pendant toute ma scolarité normale. Tout ce qui pouvait juste couler, être
Ouais.
facile, tranquille. Et par contre, ce que j'ai souhaité rajouter en plus, bah c'est pas si easy quoi.
Ouais, après, je pense que, j'ai dit, j'ai pris ça par facilité, je pense que, en fait, le choix se présentait devant moi de faire une classe prépa ou ça,
Ouais.
et je savais déjà ce que je voulais de ma vie à ce moment-là, je voulais
Pas bosser quoi.
travailler, mais pas, oui,
Non mais
mais tu
je suis
vois,
exactement pareil
je voulais
moi.
bosser, mais tu vois, pour moi, pour que je bosse bien, tu vois, j'ai besoin d'avoir une partie de ma journée où je fais de la merde. Tu vois, où je peux me permettre d'aller sur YouTube et puis regarder des trucs qui vont jamais me servir. C'est bon pour ma santé mentale. Après, je travaille bien, tu vois. Ça, c'est pas possible en classe prépa. Enfin,
Oui.
t'échoues,
Là pour le
mais.
coup on rentre dans le truc de il faut que bah, en fait il faut que tu bosses quoi, enfin, il faut que tu bosses. Il faut que tu dédies au moins beaucoup de ton temps à ça, quoi.
Ouais,
Et c'est chiant.
ouais, c'est ça. Et puis, je pense aussi que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Enfin, c'est relié un petit peu ma personnalité à comment j'ai grandi aussi. Parce que si tu veux, bah, j'ai beaucoup d'anxiété quand j'étais petit et tout. Et du coup, bah, j'ai grandi avec pas beaucoup de confiance en moi. Enfin, zéro, tu vois. Et j'essayais, enfin, comme je t'avais dit, j'ai essayé plein de trucs.
Ouais.
J'ai fait 10 ans de foot, j'étais nul à chier. J'étais nul à chier. Et j'étais en quête de trucs où j'étais bon. Tu
Ah.
vois?
Ouais, mais quand même, ça veut dire que attends, t'as resté pendant 10 ans dans une discipline où t'étais pas bon.
Ouais,
Donc
oui.
c'est quand même, ça veut dire que il y avait un espoir que tu deviennes bon. Enfin, t'étais meilleur forcément à la fin qu'au début.
Ouais, mais c'était nul.
Mais c'est ouais.
Mais ouais, bah. Après, je pense que c'était plus une habitude et je faisais du sport, quoi. Mais après, à côté de ça, je cherchais genre des hobbies, genre enfin du cinéma. Et en fait, j'étais. Parce que si tu veux, j'ai toujours eu confiance en mes capacités en tant que travailleur, tu vois. Je sais que je peux rendre un dossier à temps ou je peux faire un truc qui est bien articulé et tout. Mais pour moi, ça fait pas appel à genre à qui je suis en tant que personne, en tant que Charlie Stevens, tu vois. Et du coup, je voulais quelque chose où genre c'est moi, ma personnalité, ma personne.
Qui transpire dans le truc que
Voilà.
tu produis. Ouais.
Et le cinéma, ça avait commencé un petit peu à ça parce que j'ai commencé à faire des films. Et en fait, quand je trouve un truc où je me dis, ah, là j'étais bon, bah je poursuis ça. Et je bosse dessus.
D'accord. Et attends, t'as tourné des films, c'est-à-dire, t'as fait quoi? T'étais acteur dans un truc?
En fait, j'avais, quand j'étais gamin, encore une fois, ça m'est tombé par hasard, j'ai pris l'appareil photo de mes parents, tu vois, et puis j'ai tourné un film de zombies, tu vois.
Genre, ah, ok, oui, oui.
C'était chier avec tes potes.
Ok.
Et en fait, ça s'est transformé en chaîne YouTube, caméscope, j'avais des lumières phosphorescentes, j'avais un fond vert, je faisais des festivals de films, je faisais des entrées et tout, j'ai fait un film de 7 minutes sur la schizophrénie.
D'accord.
Et en fait, une fois, j'ai perdu et je me suis ramassé, enfin, parce que j'ai fait un truc de merde.
Ouais.
Très clairement. J'ai pas accepté cet échec et j'ai abandonné.
Ah ouais. T'as dit non, en fait, ça y est. Ouais, si j'ai eu un échec dans ce truc,
Ouais. Mais après, ça m'a appris aussi à persévérer si jamais. Et en fait, finalement, je suis...
Est-ce que maintenant, tu pourrais te dire, peut-être, j'aurais retourné dans le site, dans faire des films ou des trucs comme ça, ou pas? Ou genre, vraiment, ça y est, en fait.
Ça y est, en fait. J'ai pas cette... j'ai plus la personne de ça, et puis je pense que j'aurais dû peaufiner cette compétence beaucoup plus tôt. Après, je sais pas, j'ouvre les portes, enfin, j'ai sa porte ouverte. Mais est-ce que mais par rapport au truc initial de genre, est-ce que j'aime les trucs qui galèrent? Alors, je dirais que oui, j'aime les trucs où je galère, mais après, le stand-up, c'est mes trucs qui m'est arrivé relativement facilement.
Mm-hmm.
Et c'est un peu une révélation dans le sens où, ah ouais, j'y arrive.
Ouais.
Ouais, j'y arrive, tu vois, et même si je fais des trucs qui sont pas forcément préparés,
ouais, ouais, je m'investis pas forcément à 100%. C'est pas un full bid, quoi.
Je peux count on my personnalité pour faire des trucs drôles, quoi. Je peux vraiment m'appuyer là-dessus, parce que je sais que, enfin, quand je dis des trucs un peu comme ça et je fais un petit peu le guignol entre guillemets,
oui, il y aura des rires et ça passera pour un set pour un set valable, quoi.
Mais après, tu vois, je pense qu'on... Moi, je pense que je fais stand-up pour dans la même raison que tout le monde, tu vois.
Pour baiser.
Ouais. De ouf. Alors que non. Alors que pas du tout. Tout le monde croit. Et tu sais, on m'a posé la question le jour quand j'étais à Strasbourg. On m'a dit, ouais, ça t'arrive souvent que, genre, après un spectacle, genre une meuf qui est arrivée et tout, puis après tu rentres avec. Non, jamais.
Ce que les gens savent pas, c'est que déjà, de base, après... un spectacle, un truc comme ça, mais en fait on reste tellement trop souvent entre comiques à continuer à blaguer ou à débriefer des trucs, etc. Et tu sais, parfois il y a des gens, ce qui est des spectateurs, qui essaient de rentrer un peu dans le cercle.
Ouais.
Et même si, en plus moi je suis assez genre, allez, ok, on va s'intéresser à toi, etc. Mais très vite, ils se font... éjecté par le blob d'humoriste, tu sais, comme si c'était un organisme un peu vivant, tu sais, ils font genre, non, mais en fait, t'es pas assez drôle pour rester.
Tu sais pas ce que c'est un tag?
Oh. Le truc de connard, tu sais.
Ah non, mais oui. Non, mais ça, c'est bien vrai aussi, mais... Ah, quoique, je pense que le plus proche que j'en avais été, c'était une fois après un spectacle, il y avait une meuf qui m'avait dit, ah ouais, t'étais trop drôle, quoi. Elle m'avait... Ouais. Le draguer.
Ouais.
Et.
T'as pas du tout capitalisé dessus.
Si, si.
Si, ah, voilà.
Si, si. Alors, du coup, je l'ai pêché dans le bar.
Ouais.
Elle m'a donné son numéro. Et je devais la revoir. Et tu vois, genre, elle m'a dit un truc. Enfin, franchement, ça, c'est pour tous les anglophones. Je lui ai dit, what are you doing on Sunday? Elle se retourne, elle a dit, you. Et genre, je me suis dit, ah,
c'est fait.
Ah, et c'est dans le sac. Tu vois, celui-là.
C'est réglé.
Et finalement, elle m'a ghosté. J'ai appris qu'elle était lesbienne.
What? En fait, c'était sa soirée, genre, bon, on va tester une dernière fois l'hétérosexualité.
Mais le lendemain,
elle m'a fait, qu'est-ce que j'ai fait hier?
Lui,
je crois que j'ai donné un numéro à un gars.
Oh non, mais c'était vraiment horrible, quoi. Et du coup, voilà. C'est le plus proche que j'en avais été, mais franchement, tout le monde a l'image que, déjà.
Non, mais. Oui, non, mais
ça. Est-ce que t'as déjà dit. Ouais, toi, t'as un système de peur. Tu dois avoir. T'es pas dépressive, un truc comme ça, genre, est-ce que tu es un peu nihiliste?
En fait, il faut avoir, pour dire cette phrase, il faut avoir une certaine culture du stand-up.
Mm.
Et donc, comme en France, il n'y en a pas beaucoup de culture du stand-up, un Français m'a pas dit ça. Après, moi, c'est un de mes trucs favoris à dire à certains autres stand-uppers où je sens la fibre nihiliste, justement. Ouais. Où je sens la dépression aussi, tu vois. Mais non, je pense pas que un non-humoriste m'ait dit ça. Après, je t'avoue que je j'ai pas de souvenir non plus d'un humoriste. Hein, pourquoi toi on te l'a dit?
Ah ouais.
Mais des Anglais, des anglophones. Oui, voilà, voilà.
Des anglophones.
Ouais,
genre,
ouais.
Genre par exemple, moi on m'a déjà dit, genre je sors sur scène et tout, on m'a déjà dit. Ah ouais, t'étais génial, mais je sens que t'es cassé, tu vois.
Ah ouais, ouais, ouais. Bon, après ça, c'est peut-être une technique de drague aussi, ouais. Attention. I feel you're broken.
Ouais, ouais.
Let me mend you. je vais te réparer.
Je vais te verser, ouais. Ça, ouais. Non, mais c'est vrai, genre, on m'a déjà dit, ah ouais, non, tu dois être manique dépressif, un truc comme ça. Ah, après, c'est sûr, je remarque que, tu vois, genre, tu sais, on a tous nos problèmes, je pense. Et c'est vrai que je pense qu'il faut être un petit peu fucked up pour...
Non, mais oui, il y a un truc bizarre de se dire... Moi, ça m'arrive parfois d'avoir des, tu sais, ces éclairs de lucidité, de dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Genre, ouais. Chacun son tour, on va parler devant cette quarantaine de personnes qui est là, qui est venue voir une personne... Enfin, genre, on se connaît pas, pourquoi on fait ça, en fait. Genre, venez, on va prendre un café, si vous voulez me connaître, ouais. Tu vois. Mais... ouais, ouais, mais en même temps, c'est comme ça.
Non, mais c'est vraiment chelou. Et non, mais ouais. Et puis, des fois, tu vois, genre, enfin, moi, je suis très. Enfin, et du coup, avec Joe Rogan et tout ça, genre, j'aime bien tout ce qui est. Enfin, on parle souvent de self-help et tout, des trucs comme ça. Genre,
oui, ouais, oui.
Et j'aime bien ce monde-là, tu vois, parce que je sais. Enfin, moi, je suis tout pour l'amélioration de soi-même, tu vois. Mais moi, je me pose la question des fois. Est-ce que si je me répare trop...
Ah oui, si tu es trop équilibré...
Si je suis trop équilibré, est-ce que tu vas être drôle?
Ouais, est-ce que... ouais, ça, c'est la grosse question. Et je sais qu'il y a TJ Miller, tu sais, le oui. Stand-upper qui...
Qui est passé à Paris, d'ailleurs.
Ah oui, qui est passé à Paris. J'ai pas vu. Alors que l'Apollo Théâtre, c'est à côté de chez moi. Il y a TJ Miller et Segura, en plus. Tom Segura qui est passé.
Qui sont passés. Hier soir. Dimanche soir.
Non, lui, il était à l'Olympia, Richard, par contre. Mais ouais, bon, bref. Tout ça pour dire que TJ Miller, il s'était fait opérer pas pour un truc au niveau du cerveau. Genre, il y avait eu un risque d'anévrisme ou un truc comme ça.
Ah ouais.
Et il y a longtemps, je pense, hein, parce que c'était il y a quelques années que j'avais écouté ça dans un podcast. Et le mec disait, en fait... et j'avais trop peur, parce que j'avais peur que, si ça se trouve, le problème que j'avais, c'est ça qui faisait que j'étais drôle, en fait.
Ah, ouais.
Qui fait que je... Et du coup, si on me le règle, ça se trouve, je vais être juste... tu vois.
Juste un mec banal.
Non, je pense que... Non, mais je pense qu'une vision avec des angles particuliers, enfin, ça se garde, quel que soit le... Le truc, parce que je pense, parce qu'il y a aussi en fait du travail qui devient toi-même en fait. Dans, tu sais, devoir écrire, devoir aller chercher des trucs innovants, etc. C'est comme un muscle en l'occurrence.
Oui.
Et plus tu t'assois pour l'écrire, plus ça va être rapide la prochaine fois que tu vas t'asseoir pour l'écrire en fait. Donc voilà. Après, genre. Après, il y a quelque chose où j'y ai vraiment pensé pour te dire à quel point je réfléchis à des choses sous la douche.
Mec, la aussi. Peine. J'ai toujours mon carnet en bas.
C'est qu'en fait, s'il existe un type d'être pour qui l'humour n'existe plus, en fait, c'est l'être absolument illuminé, quoi. Genre, enfin, enlightened, en termes de... Comment ça s'appellerait en français? Éclairé. Genre, ultra éclairé, ultra... Parce que j'ai pensé à ça avec un raisonnement où, tu sais, on dit, ben, les blagues qui ne sont plus possibles de faire parce que nous sommes dans un environnement woke, etc. Et en fait, je dis, l'ultra wokeness... Genre vraiment l'ultra wokeness, et je parle de la vraie, genre vraiment celle qui serait presque inhérente à ton pouvoir cérébral. C'est-à-dire qu'en gros, on s'éloigne totalement de la personne qui juste rigole parce que l'autre, elle a un accent différent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait rire, faut le dire, ça fait rire les gens.
Oui.
Quand t'arrives, le gars, il a juste un accent.
Oui.
Ça ne veut, il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague, c'est juste, on rigole. Pourquoi la personne rigole? Parce qu'en fait, c'est la différence, en fait.
Oui.
Mais une personne qui est, tu vois, presque l'alien, l'alien de comment on le perçoit dans les films, tu sais, genre le Grey Aliens qui sait tout sur tout, etc. Mais en fait, si tu sais tout sur tout, l'humour n'existe plus.
Oui, oui.
Parce qu'il y a zéro surprise. En fait, même si tu dis, la personne va marcher, dans 4 secondes, va marcher sur cette peau de banane et va tomber, en fait. Mmh. Et voilà, ça va être telle partie de son corps qui va toucher le sol, etc. Parce qu'en fait, t'as... pour toi, c'est comme dire « ceci est une table » et rigoler. Oui, tu vois ce que je veux dire ? C'est juste un statement de ce qui se passe autour de toi. Du coup, je me suis dit, il n'y a que ce truc-là. C'est-à-dire que vraiment, si t'es un Dalai Lama presque pas humain, il n'y a que ça qui fait que tu n'as plus d'humour, en fait. Mais si t'es juste un peu en dessous de ça, eh ben, il y aura de l'humour encore.
Il y a l'espace.
Voilà, parce que juste l'espace qui te manque d'enlightenment... Eh ben, c'est pile cet espace où tu pourras tout caser tout en humour.
C'est ça, c'est ça. Enfin, parce que, et puis la preuve dans tout ça, c'est comment les gens... Enfin, moi, tu sais, quand tu vois un public, un truc comme ça, c'est quand quelqu'un rigole et fait un commentaire, après, le commentaire que tu entends le plus souvent, c'est « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. »
Ah, moi, j'aime bien ça. C'est pas tout le monde qui va avoir ce commentaire. Parce que ça veut dire que si t'as ça, ça veut dire que tu t'as dit un truc qui était assez original et en même temps... et en même temps, voilà, oui, que la personne ne l'a pas entendu, mais qui est cohérent, en fait.
C'est pas
le propos de tout le monde, pour le coup. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien ce genre de choses, quoi. J'aime bien, je pense que l'un des plus gros compliments, en fait, de stand-up que j'ai eu, bizarrement, c'est juste une pote, en fait, qui a recité un raisonnement que j'ai eu en stand-up, mais qui savait plus que c'était moi. En fait, moi, je m'en fous de savoir que c'était moi. Et à un moment, elle a redit, ah, mais je sais plus, mais bref, c'était ça. Et j'ai dit, c'était dans mon spectacle. J'étais venu voir machin.
Ah,
et en fait, en vrai, moi, ça me va... Il y a des gens qui te diront, si elle a pas retenu que c'était toi, c'est un fail, tu vois. Non, moi, c'est typiquement le contraire, en fait. Je veux presque moins exister que mon propos. Le propos là, et moi c'était le voilà, c'est le truc parfait, c'est genre je peux prendre ma retraite maintenant, quoi.
Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Après moi j'ai pas eu d'expérience comme ça, mais la semaine dernière j'ai eu un compliment hyper bizarre. Quelqu'un m'avait dit, ah bah toi quand tu étais sur scène, moi je pense à Dave Chappelle.
C'est moi qui me dit Charlie, je pense Dave Chappelle direct.
Dave Chappelle direct. Non mais.
Mais pourquoi?
Elle avait raisonné ça en mode ouais, t'as une présence sur scène.
Mais je crois, il y a un peu de ça parce que ce que tu disais aussi tout à l'heure, moi, t'es une des premières personnes que j'ai vues où effectivement il y avait le côté quand on t'entend parler sur scène, tu parles un peu pareil dans la vraie vie.
Ah ouais?
Enfin, sur certains. Quand c'est pas des sets justement, tu vois, quand tu peux faire des transitions en mode genre je suis vraiment détendu et je parle comme ça, ce qui est un peu le côté des stand-uppers qui sont pros, quoi, comme Dave Chappelle, quoi.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Après, je dirais pas que je suis 100% naturel sur scène.
Non, mais bien sûr, mais.
Personne l'est. Et je pense que après, je dirais pas que j'ai un personnage non plus. Parce qu'il y a plein de gens qui ont un personnage et qui jouent leur.
Oui, totalement différemment.
Ouais, après, tu vois, genre, moi, tu vois, genre, c'est mes expériences qui sont vraiment passées.
Mais c'est ça, toi, tu peux. Et c'est ça qui peut te faire rebondir, justement, sur. Ce que quelqu'un dit dans le public.
Ouais.
Comme tu dirais, toi, vraiment, tu vois, t'es pas bridé par le fait de. Je pense que ça peut être ça.
C'est ça, mais je dirais aussi que j'ai un mood de stand-up où, genre.
J'aime bien ça, j'ai un mood.
Non, mais
c'est un bon début de phrase.
Non, j'ai un mood de stand-up dans le sens où, tu vois, genre, je crois qu'on a tous un petit rituel avant d'y aller sur scène, tu vois.
C'est quoi le tir?
Moi, c'est que. Je vais dans les toilettes et.
et je m'échauffe. Ça dure 45 minutes.
Ça dure 45 minutes au moins. Non, non, mais je m'échauffe. Ça, c'est super important parce que le truc, c'est que moi, je suis sourd d'une oreille, donc je fais attention à ce que les gens. Parce que le truc, c'est que j'ai tendance à ne pas m'entendre et du coup, je comprends
rien.
Zère.
D'accord.
De ce que je dis. Et donc, du coup, je m'entraîne bien là-dessus. Et je sais pas, j'ai un truc où. Je l'écris dans mon carnet en mode get into the funny mood. Et c'est quand je me mets dans un mood où genre je suis
t'as envie de déconner
j'ai envie de déconner tu vois et du coup bah
alcool ou pas
hein
alcool ou pas
pas alcool.
Pas alcool
moi je bois pas avant d'aller sur scène
okay.
J'aime pas trop après si
beaucoup
mais tu vois genre enfin tu vois genre on m'a déjà dit genre post spectacle je vais être en train de parler avec des gens. Et c'est comme si je faisais du crowdworking, quoi. Genre, je leur charrie et tout.
Oui, oui.
Et du coup, ils me disent, ah, mais t'es pas descendu de la scène encore.
Ouais, ouais. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ben, on est plus détendu quand on n'est plus sur scène. Et en même temps, vu qu'on est toujours tous là, ben, en fait, mais complètement. Complètement. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, il ne faut pas être... Il ne faut pas être plus marrant à l'extérieur de la scène que sur scène. C'est qu'à ce moment-là, il faut shifter des blagues que tu as faites après et les mettre avant. C'est pour ça que, en vrai, la plus grosse difficulté, c'est d'être enfin... Comme tu disais, on ne peut pas jamais être soi-même, mais être au moins au plus proche, tu vois, comme une limite mathématique, tu vois. Tu t'approches au maximum de toi-même sur scène, et c'est ça qui te fera déconner plus facilement et même... délivrer ton set plus facilement, quoi.
Ouais, de l'authenticité. Je pense que c'est important pour les gens, pour qu'ils puissent relativiser avec ce que tu dis.
Mais alors, comment tu rentres dans ta funny mood, justement, en fait? T'écoutes des trucs. Moi, c'est vrai que j'aime pas, moi qui écoute beaucoup de podcasts, j'aime pas écouter des podcasts trop sérieux juste avant.
Ah ouais.
Tu vois, soit il faut vraiment que ce soit déconnant, soit même juste de la musique, parce que même si ça parle, j'ai l'impression de devoir trop réfléchir. Et spécialement, en plus, si c'est des comiques qui parlent dans des podcasts, même s'ils sont drôles, je suis en mode, ah ouais, mais attends, ils disent des trucs, et je vais faire un set sur ce thème-là. Faut pas que ça rentre en concurrence, quoi, avec les choses de mon cerveau.
Je pense pas que c'est un truc de setting où je dois écouter telle chose, ou c'est pas un truc mental. Moi, quand je mets dans mon funny mood, c'est quand je... C'est vraiment drôle parce que c'est quand je vais rentrer sur scène et les premiers mots que je dis, le ton que j'y mets.
Ok.
Tu vois, si je dis, si j'ai avec un peu de plus mais je dis, et ça fait comme ça, tu vois. Là, je sens que j'y suis, tu vois, c'est un peu comme ça, tu vois. Après, c'est pas ce que j'écoute avant. Après, j'essaie de me mettre un petit peu dans l'ambiance en écoutant, genre, je sais pas, un CD de John Mulaney, un truc comme ça.
Ouais.
Mais mon plus gros podcast dont je suis super fan, c'est Tiny Meat Gang. Tiny Meat Gang.
Tiny Meat Gang.
Tiny Meat Gang. Et ouais, c'est vraiment un jeu de mots sur qu'ils ont des petites bites. C'est bien, c'est là, monsieur, là.
Et donc ça, mais toi, c'est qu'en fait, tu le fais, c'est-à-dire tu conjures la funny mood par les premières intonations. C'est vrai que les deux premières phrases sur scène, c'est ce qui va te faire avoir le public, quoi.
Ouais.
Enfin, ça veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire quand t'as pas fait rire ou que t'as pas fait ce que tu voulais faire avec tes deux premières phrases.
Ouais.
Mais il y a le côté où, si t'y arrives, t'es beaucoup plus détendu, en fait, juste après.
Ouais, je pense qu'il y a une certaine... moi, je monterai jamais sur scène et je dirais jamais « salut », tu vois. « Bonsoir !» Je dirais pas « bonsoir ». Enfin, tu vois, genre, moi, je rentre sur la scène, je dis un truc qui va me dire « bon, je suis là, j'ai le micro ».
Ouais.
Tu vois, et je pense que ça, c'est important. De toute façon, pour moi, c'est une règle d'or, tu vois, de commencer fort et de finir fort.
Oui, bon, après, ouais, c'est sûr.
Ouais.
Bah, si tu veux bien closer, qu'on se rappelle de toi.
Ouais, non, oui, on se rappelle.
Et au milieu, je mets que de la merde et je parle des intrications du Brexit.
Pendant. J'ai fait justement process. Je me suis lâché sur le bac du Brexit parce que tout le monde connaissait les références.
Bah oui, forcément, ouais. Ça, c'est marrant, ça, c'est trop bien d'avoir un public qui te donne les feux verts sur le fait que non seulement ils ont les mêmes références que toi, que tu voulais à peu près mettre, mais tu peux aller encore plus profondément dans les références, quoi. C'est tu vois, moi, clairement, c'est pas trop politiquement, mais moi, j'aime bien les geeks, quoi, tu vois. Genre, j'aime bien pouvoir aller dans des trucs de nerd sur les comics ou les trucs comme ça. Et quand je vois qu'il y a des gens qui captent ce que je dis, toi, tu mets encore plus de références, tu leur mets des petits... c'est comme le cupcake où tu mets les petits, petits glitters dessus.
Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Hein.
Et ils sont tellement plus avec toi. Et c'est drôle, quoi. Le souci, c'est que en fait, il faut pas avoir... Enfin, je sais pas s'il faut ou il faut pas avoir un public de niche, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, est-ce que... Et peut-être tu vas trop kiffer. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vas être genre le gars politique, Union Européenne. Ça veut dire que tes endroits favoris, ça va être Bruxelles, Strasbourg, quoi.
Ouais, et c'est ça qui me fait peur, parce que moi, je sais pas, quand le Brexit, si le Brexit sera résolu, tu vois, il se passe quoi? J'écris sur quoi, moi, après,
tu vois? Non, mais t'inquiète pas, tu trouveras forcément
ouais,
des trucs.
Il y aura
mais
forcément des trucs.
Il y a des trucs que qui vont t'intéresser, mais la question, c'est, est-ce que, enfin, jusqu'où tu vas à ne parler qu'à ces personnes-là, en fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, t'as envie d'en parler.
Oui, j'ai envie d'en parler, mais après, tu vois, genre, j'évite, parce que du coup...
Mais c'est ça.
J'évite parce que je sais que c'est assez niche quand même et j'ai pas envie d'être niche comme ça. Après, le truc c'est que.
Alors pourquoi t'as pas envie d'être niche comme ça? Parce que moi, je vois certains comiques où je me dis en fait, ils sont créés. Enfin, on dit niche, mais de avec une quantité de followers assez importante. Quoi. Je pense à Patton Oswalt qui est un peu le gars nerd justement, geek, etc.
C'est qui le mec Fred Armisen.
Fred Armisen.
Lui, j'en ai son spectacle. Alors... J'ai rien compris.
Fred Armisen, ouais, lui, en plus, il était dans la musique aussi, donc oui, lui, il a des rêves de partout, mais c'est ça, en fait, c'est... Après, eux, c'est particulier, parce qu'en fait, ils ont des années de carrière, et des années à être exposés à toute à la population entière des États-Unis,
ouais.
Pour que les gens sachent ce gars-là, je l'aime bien. C'est-à-dire qu'en gros, il passe dans un second rôle dans une série. Les gars, ils disent, ah, ce gars-là, je l'aime bien. Petit à petit, ils connaissent ton nom. Petit à petit, ils te follow. Et petit à petit, tu peux leur faire des refs ultra pointus sur le truc. Nous, on arrive, en fait. Nous, on arrive, t'es là, tu fais, ben non, t'as un public normal qui a des refs normales, quoi. Sauf que c'est pas exactement toutes les choses dont tu veux parler. Tu pourrais avoir juste envie de parler de, ben justement, de trucs de politique, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là et moi je me pose la question, bon c'est peut-être aussi un peu pour ça que je fais le podcast, c'est le côté peut-être aller juste diffuser qui je suis pour essayer d'avoir des gens qui me ressemblent quoi. Ouais voilà.
Ouais bah ça c'est clair et net. Après enfin pour moi ça c'est un défi que je m'étais posé quand j'ai commencé en fait, puisque quand tu commences, enfin, t'as des trucs qui sont un peu préécrits dans ta tête parce que c'est des trucs que tu racontes aux gens et que tu sais que c'est des histoires. Quand tu vas en soirée, c'est des histoires que tu sais qui vont marcher.
Ouais,
tu vois.
D'accord.
Et en fait.
Tout est rare un peu, du coup, ces histoires.
Ouais, un petit peu. Ouais. Oui et non, parce qu'en fait, si tu veux, tu sais, quand tu vis dans un certain cadre.
Oui, c'est biaisé par tes amis déjà. Ouais. Ok. Ouais.
Parce que si tu veux, moi, j'ai déjà vécu, toujours vécu dans des endroits où les gens ils comprenaient un petit peu l'anglais et le français déjà. Ça déjà c'est assez niche. Et dans un contexte international aussi, parce que je dirais pas que ma niche c'est le Brexit, tu vois, parce que tout le monde comprend à peu près ce qui se passe genre généralement parlant. Après j'ai des blagues qui sont vraiment niche, tu vois, comme j'ai des trucs de vraiment niche pour Pays de la Loire aussi, tu vois.
Non mais ça tu les sors que quand y est quoi. Après ça c'est des minivans.
Moi j'aime pas être niche parce que je trouve pas que c'est assez challenging.
Oui.
Parce qu'en fait...
Mais justement, est-ce que tu te forces parfois à avoir des trucs tout terrain, quoi? Genre, tu te dis, t'aimes les chiens, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois...
Voilà.
Ouais.
Bah, après, je me force pas, mais j'essaie de me mettre à l'épreuve. Parce que, en fait, ce que je me dis, c'est que j'ai eu de la chance d'avoir une vie où j'ai, en si peu de temps, tu vois, genre, j'ai 24 ans, tu vois, où j'ai vécu dans plusieurs pays différents... Je parle plusieurs langues et puis on m'a emmené genre d'un point A à un point B. Et puis sur le chemin, j'ai cumulé pas mal d'histoires drôles qui sont particulièrement à mon chemin.
Oui.
Que personne ne va pouvoir reproduire, tu vois.
Oui, bien sûr.
Des trucs où les gens ils vont se dire, ah ouais, putain, il a vécu un truc doux. Enfin,
ouais.
Enfin, il y a des gens qui peuvent penser à ça. Et ça, quand je mets ça sur scène, tu vois, je me dis, bah c'est bien, tu vois. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment travaillé dessus.
Oui.
Et de m'être mis à l'épreuve, tu vois. Je l'ai mis dans une manière que ce soit drôle.
Oui.
Mais par exemple, moi quand j'aurai des humoristes en Angleterre, enfin, moi, tu vois, par exemple, j'ai peur de passer à Londres.
Oui. Mais c'est exactement ce que j'allais te dire quand tu parlais de niche de. Tu parles à des gens qui parlent et français et anglais. La plupart des sets que je vois, moi-même que j'ai aussi, hein, à Paris en anglais, il faut les changer, quoi. Si on veut passer dans un pays connaît le stand-up et qui est full anglophone.
Ouais.
Il y a pas de... Après, moi, j'ai pas trop de vannes à français-anglais, tu vois, de différence comme ça, donc à la limite, voilà, mais c'est vrai que ça, forcément, bah, tu passes à Londres, on n'en a rien à branler, enfin, sauf si tu marketes ta soirée pour les ça, Français, ouais. En fait, justement, ouais, de là-bas, ouais. Mais encore ouais, une fois, tu restes dans le truc niche, c'est-à-dire que tu ne vas ouais. pas passer dans un comedy club normal, en fait, d'un pays normal.
C'est ça.
Enfin, d'un pays normal, encore que, d'un pays normal, encore une fois, anglophone, parce que, tu vois, j'ai joué en Écosse et j'ai joué en Allemagne. C'est pas les mêmes choses en fait. Tu vois, en Allemagne, ça reste de l'expat, ouais, le côté oui, anglais.
Oui, ouais.
Et le côté expat, du coup, ça veut dire qu'il y a des Allemands. Il y a peut-être des Français aussi dans ça. Il y a clairement, tout comme ici, il y a plein d'Américains, plein d'Anglais qui viennent voir du stand-up. Mais il y a ce côté, c'est pas normal qu'on parle anglais dans cette soirée. Donc, si tu veux, il y a ou une espèce d'indulgence ou une espèce de
safe space,
de même sur les thèmes, le côté que voilà, c'est un peu open. Ben ouais, alors on est en Écosse, bon, pour le coup, enfin c'était l'une de mes premières scènes, mais donc c'était juste c'était un des sets sur moi personnellement, donc tu vois, donc ça va passer, mais il faut pas non plus que ce soit trop loin de tout ce que les gens peuvent capter comme référence et comme non pas du tout okay. C'était non pas du tout
ok non, d'accord c'était... je t'ai
su non je n'ai pas payé 15 000 $ pour jouer mon spectacle à Fringe.
C'est n'importe quoi. Non mais en vrai, non mais je comprends. Non mais je comprends vraiment ce que tu dis. Et mais j'aimerais bien, grâce au petit réseau qu'ils ont créé là, l'Espagne, l'Allemagne.
Ouais aussi, ouais. Non mais Barcelone, on m'a dit qu'ils avaient 5 par semaine au moins.
C'est n'importe.
5 soirs par semaine où il y a du stand-up et 8 shows en fait. C'est-à-dire qu'il y a des soirs, il y en a 2.
C'est quoi hein.
Mais c'est énorme ouais. Mais ce qui est, enfin il y a plein d'Américains du coup là-bas aussi.
Ah ouais. Ah oui bah.
Ouais, ça me paraît bien. Ouais. Il faut qu'on soit une semaine là-bas.
Ah, grave. Moi, à un moment, j'aimerais bien faire un petit tour, tu vois, de tout. Mais même, franchement, si tu savais, genre aux Pays-Bas,
oui, bah,
en
oui.
Belgique aussi, genre même à Anvers ou.
Pays-Bas, ça doit être ouf parce que tout le monde est quasiment bilingue. Donc, c'est.
Pour eux, c'est dans le sang, tu vois.
Ouais.
Mais tu vois, pour revenir, pour moi, c'est vraiment un défi. Quand moi je vois quelqu'un qui passe sur la voie de Apollo et que j'ai vu un mec, il a fait 5 minutes sur les machines à laver. Tu vois, le mec il a fait 5 minutes et j'étais plié.
Oui,
non, et mais le
oui.
pli qui était plié. Et pour moi, le fait d'avoir fait un truc comme ça sur un truc aussi banal et d'avoir pris ce thème et d'avoir dit ok, tiens, van, c'est du génie.
C'est, ouais, oui, mais moi c'est mes trucs. Ça fait partie de mes trucs préférés à regarder. Les trucs à la Seinfeld. Ouais. À la Brian Regan sur des trucs sur de la lessive, sur payer à la caissière, genre, ça parle là clairement, là on n'est pas du tout dans de la niche, tu vois, là le gars il parle à 100% des gens quoi.
Ouais.
Sauf si tu es né dans le coma, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça parle à 100% des gens.
Ouais.
Et c'est ce que, et j'adore en fait, parce que pourquoi, parce que c'est ultra bien fait. Cela dit, c'est pas... Alors peut-être est-ce que c'est parce que c'est trop, est-ce que c'est parce que c'est très difficile à faire que peut-être je teste même pas de le faire, mais j'ai pas l'impression que c'est ce que je veux faire en fait. C'est-à-dire que en gros c'est comme si tu disais, écoute moi j'aime, enfin, et c'est vrai j'aime bien, il y a des films Disney que j'aime bien, mais si je devais réaliser un truc, ce serait pas un film Disney quoi.
Ouais, tu vois, donc
il y a ce côté où t'as le droit d'apprécier des choses que tu ne veux pas forcément faire.
Ouais. Ouais.
Mais et encore, pour continuer avec le parallèle de film, c'est pas pour genre me dire ma vie est trop difficile, il faut comprendre dans le stand-up, c'est que tu te dis peut-être moi ce que je veux faire, ça va de base, ça va peut-être pas parler à tous les gens en fait, tu vois. Ce que je veux dire, parce que il y a des trucs où je peux enlever le max de références dans ce que je dis, mais il faut quand même avoir un bagage. Il faut quand même avoir un bagage intellectuel.
Parce que
j'ai pas envie de blaguer sur des choses. Je vais être obligé de mettre une hiérarchie très condescendante. J'ai pas envie de blaguer sur les choses en dessous de ça, en fait. Tu vois ce que j'ai? J'ai envie de blaguer que sur des choses où, déjà, vous avez ce concept en tête, vous le vivez, et donc, ok, c'est sur ça, en fait, que j'ai envie de blaguer. C'est comme si tu disais, j'ai envie de faire des blagues sur aller voir mon psy, en fait.
Oui.
Tu vois ce que j'ai? Et en fait, j'en ai des blagues sur ça, j'ai envie de faire des blagues sur ça. Mais derrière, il y a des gens, parce qu'ils vivent dans une culture où ça, ça n'est pas accepté, ou alors ça n'est pas commun, ou des trucs comme ça. Ben en fait, c'est littéralement comme si tu disais, ouais, enfin, je sais pas.
C'est le soir et la nuit, quoi.
Ouais, ouais, enfin, oui. Et donc, déjà, il faut, ça veut dire que quoi, tu es obligé de passer quoi, 5 minutes à leur vendre le concept du psy pour arriver à la partie que t'aimes bien, qui est de faire des blagues, en fait, sur le psy. Donc, je. Voilà, c'est un placeholder pour d'autres sujets, quoi, mais. Mais c'est le truc, quoi.
Après, c'est sûr que j'aimerais bien faire des trucs. Des vannes sur des trucs un peu plus communs, mais pas des trucs surfaits non plus, tu vois. Par exemple, moi, ça m'insupporte, enfin...
Toi, tu veux le sèche-linge, parce que ça peut encore...
Le ouais, à le sèche-linge, ouais, c'est ça. Par exemple, bah, après, pas des trucs qui sont... Enfin, des trucs faits et refaits, tu vois. Enfin, par exemple, moi, ce qui m'insupporte, c'est quand on parle de Tinder, tu vois. Quand on fait un truc sur Tinder, je me dis, ah, ouais, d'accord, c'est parti.
Mais
tu vois, on n'a pas assez...
Tout le monde a eu son 7 sur Tinder, tu vois, et la question c'est à quel point il y a de la poussière dessus maintenant, en fait.
Ouais.
Non, mais ouais. Est-ce que tu l'as pas fait depuis très longtemps, ou est-ce que tu le fais trop souvent encore aujourd'hui, quoi?
Non, mais oui, mais franchement, je me rends compte que la conversation qu'on va avoir, c'est sur un truc de stand-up qui, enfin, poussé pour les gens, ça paraît tellement anodin, tu vois. Enfin, tu vois, genre, c'est ce que je remarque quand j'emmène des potes voir du stand-up.
Ouais.
Quand ils disent, ah ouais, donc c'est pas juste, tu vas surfer, mais raconte de la merde.
Oui, non. Ouais. Ouais, c'est marrant parce qu'on rentre dans des théorisations de plein de trucs, on se pose plein de questions, et c'est vrai que pour la vie des gens, c'était juste 10 minutes en fait. Ils en ont rien à branler, ils repartent dans leur vie normale en fait après. Ouais. Et nous derrière, on est là, on stresse pendant un jour, deux jours. Ah, il faut que je prépare ce set.
Ouais.
Il faut que je fasse ça.
Le patcha, il est pas bon là.
Tu vois, c'est là. Que le côté nihiliste revient aussi en mode méta, c'est qu'en fait ça ne sert à rien. Non, rien ne sert à rien.
Ça ne sert à rien.
Toute ta vie, tu l'as passé, enfin en tout cas la partie de ta vie, tu vois, qui n'était pas chez Politico cette semaine-là.
Ouais.
Tu t'es dit, ok, jeudi soir, j'ai ce set à préparer, il faut que je fasse ça. Tu penses à ça, tu rajoutes des vannes, tu dis, ah, mais ça va peut-être pas parler un truc. On a ce genre de discussion après, de dire, ouais, c'est peut-être trop référencé, pas assez référencé, la culture des trucs, machin, etc. etc. Et en fait, les gens, ils sont là, genre, toi, t'as calé tes mots. Tu sais, la phrase, elle doit faire cette intonation-là, avec ce mot-là, là. Et en fait, les gens, ils sont en mode, genre, ah ouais, ah, c'est ça que t'as fait ? Ah, j'ai pas...
Ouais, c'est pas, ça, j'ai pas, vraiment, ouais. C'est vraiment, vraiment,
avec,
vraiment...
Moi, j'ai trop aimé quand t'as répondu au gars qui avait pris sa bière devant toi. Tu vois, ouais. C'est tout le temps sur les trucs qui se sont passés au dernier moment.
Non, mais c'est vraiment ça, en plus. Et quand ils te disent, ah, mais c'est parce que... Tu fais la même chose tout le temps. Ah, d'accord. Moi, je crois que ça changeait tout le temps. Eh, franchement.
Non, mais après, tu vois, je suis, enfin, en spectateur aussi. Enfin, c'est là que tu te rends compte que t'es pareil. Parce qu'en spectateur aussi, bon, bien sûr, tu vas avoir le plus l'analyse de ton set. Voilà, moi, je me dis, ok, Charlie passe. Il fait ça. Ah, tiens, il a une nouvelle transition, un truc comme ça. Mais derrière, effectivement, là où je vais rire, c'est parce que tu viens de faire du mini crowdwork sur un gars.
Ouais.
Parce que je m'y attendais pas, quoi.
Ouais.
Et pareil, après, je vais me dire, oui, bon, ok, c'est le même set que la semaine dernière, ce qui est normal, et que moi aussi j'aurais fait le même, ce soir-là. Mais, et en fait, c'est ça, c'est qu'on est tous le spectateur.
Non, mais oui.
Qui en a rien à branler, on est un peu.
Non, mais oui. Moi, j'arrive plutôt à rire pendant les spectacles du monde, je te l'avoue, hein. Ouais. Parce que je suis trop mal à l'analyse. Du coup, j'aurais les gens, ils ont vraiment rigolé à ça, tu vois. Genre, qu'est-ce qui était drôle dans ce qu'ils viennent de se dire. Et puis, dans ce sens-là, tu vois, enfin, je me dis aussi un commentaire que je me fais tout le temps dans la tête, c'est le stand-up, c'est vraiment hardcore quand même. C'est hardcore niveau rejection, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, ma soeur qui est dans le champ, par exemple, elle peut faire de la merde, elle a faim, par courtoisie, les gens vont quand même applaudir.
Oui.
Tu vois? Après, tu sais à quel degré t'as fait bien ou pas, si les gens ils se lèvent ou s'ils font
ça comme ça. Fallait juste rajouter une mélodie à ce que tu dis devant le micro, et les gens ils vont quand même être. Te dire c'est pas grave en fait. Alors que si t'es en pur stand-up, ils vont pas. Voilà.
Enfin, en fait, tu vois, quand tu fais du stand-up, tu fais appel à une réaction qui est complètement incontrôlable.
Ouais.
Ça veut dire que, par exemple, la personne qui rigole devant toi, elle n'a pas choisi de rigoler. Mmh. Elle a rigolé parce qu'elle a rigolé, elle a trouvé ça drôle, tu vois. Elle n'a pas choisi que c'était drôle.
c'est drôle ou ça l'est pas.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment hardcore parce qu'en fait, finalement, tu vois, genre.
C'est pour ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le Comedy Lab et que le fait que le setup soit parfait, c'est qu'ils sont dans la pénombre et que la pénombre, c'est parfait pour que les gens rigolent. Et en fait se laisse aller avec le truc incontrôlable et qu'il fasse pas ce petit check de regarder le visage des gens, est-ce que je peux rire à cette vanne, parce qu'en fait là ça veut dire que t'es allé dans l'intellect en fait.
Ouais.
Il faut que ce soit reptilien, il faut que ce soit juste
c'est ça exactement ça, et c'est pour ça que c'est hardcore. C'est parce qu'après ça dédonne un petit peu les gens quand ils rigolent pas.
Oui.
Quand ils rigolent pas, ils sont en mode j'ai pas rigolé, j'ai pas rigolé, tu vois.
Je suis
désolé, je vais pas me forcer. Et je pense que ce qui est hardcore aussi, c'est les petits ego checks que tu as quand tu bides aussi, quand tu penses qu'un truc est drôle.
C'est important.
Et t'es en mode, juste moi. D'accord, il y a juste moi qui trouve que les meufs ont des grosses dents sommages, tu vois.
Non, mais c'est important. Moi, j'en ai eu un sur un set qui marche en plus, mais j'en ai eu un récemment. Enfin, je sais pas, c'était il y a 3 semaines. Mais tu vois, il y a plein de métiers où tu te prends pas de mini-gifles, en fait.
Oui.
Et je pense que c'est important. Parce qu'il y a plein de métiers déjà où il n'y a pas de rétro-contrôle, où on ne va pas te dire ton tableau Excel, il est nul, même si tu en as fait plein d'autres. Et là, oui, en fait. Là, oui, tu vas dire, j'ai été mauvais là. J'ai été mauvais ce soir. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs la même perception, comme d'habitude, la perception que tu as de toi sur scène, ce n'est pas la perception qu'il y a dans le public. Mais voilà, j'ai eu un truc où je me suis dit, non, mais là c'était une gifle, quoi. Et comment ça se fait? Et c'est là que tu commences à décomposer ta vie et tu dis, ok, en fait, j'ai juste pas bossé, quoi. J'ai juste pas repris mon set et je l'ai pas fait avec assez d'énergie, fait avec des trucs. Et moi, j'aime bien, parce que c'est très naturel, en fait, tout ce qui est rétro-contrôle. Moi, j'aime bien, comme tu disais tout à l'heure, tu pousses trop. Tu reviens, tu pousses pas assez, et ben il faut que tu pousses plus. Tu vois, le côté de savoir où te mettre, tu sais, pour la zone d'arrimage dans
c'est
le
ça.
Truc,
t'es
dans le vert. T'es dans le vert à chaque fois. Et pour être dans le vert, il faut avoir été dans le rouge pour savoir quelle est la correction de course qu'il faut avoir.
C'est ça.
Et le problème, c'est qu'il y a très peu de métiers, ou même de hobbies, de choses comme ça, où il y a la petite gifle. Où il y a le truc de non, mais là, non, t'as été nul.
Ouais.
Voilà, en vrai, et c'est pour ça que c'est pas mal pour donner du grain à moudre aux fans de Joe Rogan, mais c'est pas mal les sports de combat. Parce que les sports de combat, en fait, tu te chies, tu te prends un coup, et voilà.
C'est ça.
Alors, pas grave, quoi, mais genre, mais tu vois, pour ceux qui ont déjà fait des cours de boxe, des trucs comme ça, les gens se tapent pas vraiment dessus, tu vois, ils font du sparring, mais en vrai. Moi, je sais que, tu vois, pour avoir fait un peu de sport de combat, t'as des gants, des trucs comme ça, mais au bout d'un moment, tu sais, tes bras, ils fatiguent, et ta garde, elle est plus là, et tu t'es pris un coup, en fait. Ça te fait apprendre que non, en fait. La garde, vraiment, même si t'es fatigué, tu la tiens.
Non, mais ouais, c'est vraiment important, comme tu disais, le rétro, la rétroaction, quoi. Et je pense que c'est soit tu l'as et tu bides souvent, et tu bides assez souvent pour le savoir. Moi, ça n'arrive plus très souvent de bider. Je dois vraiment, vraiment, vraiment bider, tu vois.
Mais je pense que.
Mais quand même.
On s'est éloigné de.
J'ai quand même.
Du full bid. Tu vois ce que je veux dire? Du silence complet. Ça, je pense pas que.
Ça m'arrive très peu souvent. Mais après, la rétroaction qui marche le plus pour moi, c'est de m'enregistrer.
Ouais.
Et d'enregistrer l'enregistrement. Non, d'écouter l'enregistrement. Et juste de se dire, tu vois, par exemple, un set où j'ai fait « Ah ouais, ça a été ». Alors qu'en fait, non.
Ouais, de te réécouter, tu dis « Ah, mais les gens, ils n'ont pas… »
Ils ont pas kiffé. Et puis en fait, t'as mis ton micro genre à un endroit, à un moment dans la salle, et tu entends quelqu'un qui dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et tu t'écoutes et genre, je pense que c'est vraiment juste un rituel vraiment important de juste de t'écouter, t'entendre prendre le truc… Le bid, même si tu l'as vécu en live, tu le réécoutes et tu le revis, genre juste de se baigner dans la merde juste pendant 5 minutes pour dire ok, d'accord, tu vois, juste pour dire ouais, t'as vraiment pas envie de revivre ça, donc tu vas retaffer dessus.
Est-ce qu'il y a des trucs de ça là, de cet aspect là du stand-up que tu peux ou que tu as pris dans, bah, dans un Politico, par exemple, tu vois. Est-ce que... Non, parce qu'en fait, ça voudrait dire prendre des risques, en fait. C'est ça, le truc.
Ah.
Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait, nous. C'est prendre des risques, c'est pour ça qu'on va se prendre une gifle.
Ouais.
Mais par exemple, tu crées un event avec des gens.
Ouais.
Il n'y a pas ce, ce rétro-contrôle possible. Sauf, enfin, sauf si tu dis, on prend un risque. Sauf si tu dis, ouais, écoute, on va tester. J'ai pensé à mettre ce mec-là en conférence. Enfin, je sais pas, tu
ouais,
vois.
Ouais, ouais. Mais je pense que ça peut se traduire. Enfin, même... Je pense que ce réflexe de rétroaction est de modifier et aussi de revenir sur des choses que tu as fait. C'est une leçon super importante du stand-up que j'ai appris. Hein, parce que c'est vrai que quand on fait un événement, c'est enregistré la plupart du temps.
Ouais.
Et on voit des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché.
Ouais. Et ah, donc toi, tu le fais ça, tu regardais des trucs, des événements, dire ah tiens, là c'est, on a mal placé des trucs.
Ouais, par exemple, ouais, okay. C'est arrivé, en fait, ce qui est arrivé. Parce que généralement, les événements, on s'habite pas. Ou...
Oui, les gens, ils ont à bouffer.
Mais là, ouais, bah, en fait, cet été, on avait fait un événement sur les accords de Paris, donc tout ce qui est écologie et tout. Et c'était sponsorisé par Shell, no comment.
Ok.
Voilà.
J'ai envie d'en faire des comment, mais ok.
Vas-y. Et du coup. On fait l'événement et tout, et tu vois, genre, c'était un peu anodin, tu sais, on est à Bruxelles, tu vois, genre, un événement sur l'écologie sponsorisé par Shell.
Ok.
C'est un lundi, tu vois, mm-hmm. à Bruxelles. Du coup, on commence l'événement et tout, et là, le PDG de Shell va prendre la parole.
Ok.
Quand il prend la parole, il y a deux manifestants qui se lèvent et qui mettent une bannière Shell Kills.
Ok.
Des gens qui font des sifflets, c'était Extinction Rebellion.
Ouais.
Et on était là, et en fait, on était, mais comment... Enfin, tu sais, on a laissé ces gens rentrer.
Comment gérer ça?
Et ça, on n'a pas vérifié, tu vois. Ouais. Et tu sais, aujourd'hui, dans un monde aussi polarisé, tu vois, mais comment, enfin, tu vois, genre, comment on n'a pas pu penser à ça?
Ouais.
Et tu vois, enfin, tu vois, ça, c'est un truc qu'on a pris au compte pour la prochaine fois, tu vois.
Oui, oui.
Et je pense
mais
que...
Mais en vrai, tu étais d'accord avec eux. Ah, ça, tu peux pas le dire.
Sur le fond, on va dire que oui. Après, c'est vrai que c'est un petit peu con, mais... Mais ouais, c'est, enfin, ça, c'est un exemple de là où c'est un peu en rétroaction.
Ouais.
On a revécu la chose. Et je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a plein d'entreprises qui ne le font pas. Hein. Il y a plein d'entreprises qui ne reviennent pas sur ce qu'ils ont fait. Comme il y a beaucoup d'humoristes qui ne reviennent pas sur ce qu'ils font. Et ils restent dans le déni, ils se prennent des billes et après ils se disent ouais, c'était les gars, c'était génial. J'ai fait plier toute la salle. Alors qu'en fait, non, mec, t'étais.
T'étais mauvais.
T'étais mauvais. Okay. Et. Qu'est-ce que j'ai entendu le jour? J'avais entendu quelqu'un dire. Ah oui, c'était Romesh. Tu vois qui c'est Romesh? J'ai peur de prononcer son nom de famille. C'est un humoriste britannique.
Ouais.
Il avait dit un truc qui était hyper drôle. C'était. Tu sais, quand t'as bidé, quand un humoriste vient te voir à la fin de la soirée, il t'a dit. D'après toi, ça s'est passé comment?
C'est quoi cette question de merde? Oui. Okay. Comment tu l'as senti?
Comment tu l'as senti?
Exactement.
Tu l'as senti?
C'est la façon aussi. De dire, est-ce que tu vas pleurer là dans 4 secondes ou pas?
Est-ce que tu vas pleurer maintenant ou est-ce que tu vas pleurer une fois chez toi ouais, sous la douche pour ouais, pas sentir les larmes? Hein non mais bon, ça c'est horrible quoi.
N'importe
mais,
quoi.
Je pense que les pires bits sont sur les blagues qui tu sais marchent.
Oui, bah oui, c'est
pas juste les, oui, les étoiles qui s'alignent mal, tu vois.
Et oui, oui.
Juste, ah,
et ça, c'est marrant parce que c'est là que tu rentres dans un truc où tu décortiques ce que je disais tout à l'heure, tu commences à tout décortiquer, quoi. Vraiment, où vraiment, tu regardes presque les étoiles, quoi. Mmh. Justement, c'est-à-dire, tu dis, attendez,
ah ouais.
C'était quoi comme lune ce oui. soir-là? Parce que là, je l'ai faite exactement pareil, je comprends pas.
Ouais,
ouais. Ouais. Mais ça, si tu vois, c'est juste le... Mais en fait, c'est littéralement la randomisation de la population, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, à force de prendre des gens au hasard sur un plat... Enfin, tu vois, comme tu peux avoir en public, mm-hmm. bah, tu vas te retrouver qu'avec des pompiers. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, parce que c'est comme ça. Et du coup, ce soir-là, t'es tombé sur pile le groupe de gens qui vont pas rigoler à cette vanne, en fait.
C'est ça.
Que ça leur parle pas. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai que faut être prêt à ça. C'est ça aussi le côté.
Ah ouais.
Enfin, il y a le côté un peu de frisson du truc, c'est que il y a moyen que ça marche pas.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, si t'es là, t'y arrives, et si c'est juste pour faire tout le temps du méga sûr et que tout va très bien, etc. Oui, il y a moins de frissons. C'est le fameux truc de Napoléon, de, tu vois, triomphe. Putain, merde, maintenant que j'oublie. Jamie!
Jamie!
à vaincre sans risque, on triomphe sans gloire, quoi, tu vois. C'est ce côté-là, en fait. C'est vrai que c'est toujours mieux quand t'as. Tu sais, même quand t'as fait une petite impro et que t'as fait, c'est le moment que tu préfères le plus, quoi.
Ça, il faut noter, tu vois. Ça, il faut noter les petits moments d'impro, les trucs que tu ajoutes en improvisation.
Ah ouais, mais c'est d'où l'intérêt de s'enregistrer.
Ça, ces moments-là, c'est comme une. Franchement. Une feuille d'or qui tombe du ciel. tu as présenté ça.
Il faut la garder. Ouais.
Ah mais ouais, mais ça c'est les meilleurs trucs. Mais mais franchement, enfin le stand-up, c'est.
Et du coup, toi, tu comptes ouvrir un truc, faire une soirée en tout cas à Bruxelles.
Ouais.
Organiser un truc.
Ouais, parce que du coup, je serai à Bruxelles en janvier 2020. Il y a une grosse demande pour du stand-up en anglais là-bas, et j'aimerais bien monter un truc où ce serait un open mic. Un open mic ouvert à tout le monde et puis un truc régulier toutes les semaines où tout le monde peut passer sur scène au moins une fois par mois.
Ouais.
Et pourquoi pas, si ça marche bien, transformer ça en spectacle et puis voir où ça part de là.
Je pense que c'est l'idéal, spécialement pour une ville qui a pas une bonne base, qui a une base naissante en tout cas de comiques en anglais. Mmh. C'est vrai qu'avoir un open mic, c'est-à-dire c'est un safe place pour tester des choses. Et aussi pour créer des genres nouveaux, quoi. Parce que tu vois, on va en revenir au Comedy Lab ici de Paris.
Ouais, ouais.
Tu vois, il y a des gens que t'aurais pas vu ou à qui on n'aurait pas accepté un spot sur d'autres endroits.
Ouais, ouais.
Et en fait, voilà, ils sont trop drôles.
Ouais, non, mais c'est ça. Parce que je trouve ça vraiment important de, par exemple, faire un open mic pour faire un open mic. Ça sert à rien, tu vois. Genre, si tu fais juste, j'ai un micro dans un bar, c'est tout, et je viens et dis bienvenue au open mic. Et le premier, c'est Jean-Yves.
Oui, oui, oui.
Après, si tu donnes les conditions nécessaires pour quelqu'un pour se développer et genre faire des trucs, genre ils peuvent croître, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc où tu as apporté, tu as créé.
Mais c'est important que tu veuilles faire ça plutôt que tout de suite un plateau de mecs sûrs, tu vois, ou de meufs sûrs.
Bah, je pense qu'il faut commencer par les open
mic. Ouais. En plus, je suis d'accord avec ça.
Il faut commencer par ça et puis voir si déjà les gens viennent des open mic.
Oui, c'est vrai.
Si les gens viennent déjà à ça.
Et tu me disais, les deux autres soirées, ils remplissent quand même, quoi qu'il arrive.
Ils remplissent quand même, mais justement, je me dis que c'est pas assez souvent.
Ah.
Parce que j'ai l'impression. Enfin, parce que pour l'instant, il y a une soirée, c'est toutes les deux semaines.
Ah, d'accord.
Ou des fois, c'est toutes les semaines, mais c'est pas assez régulier.
D'accord.
Alors que tu sais, valeur sûre. Comedy Lab, ce sera mercredi.
Oui, bien sûr, il faut. De toute façon,
pluie, ça, c'est la régularité. Neige, tempête,
quoi. Ouais, totalement.
Et je pense qu'il y a besoin d'un truc comme ça, ou si ce serait. En plus, c'est à des endroits différents.
Oui, non, il faut que ce soit le même endroit. Un temple. Je sais que ici, exact. Oui, un temple.
C'est ça. Un temple, enfin, où ce serait. Là,
je sais que le jour de communion, c'est.
Ouais,
c'est le mercredi, le jeudi, etc.
Et le prêtre, c'est l'MC.
Ouais.
Non, mais ouais, enfin. Du coup, bah, je vais essayer de monter un truc là-bas et puis, pourquoi pas, voir où ça mène, quoi. Parce que. Enfin, tu vois, genre, enfin, ce que je dis. Enfin, justement, pour revenir à la question, ce que je disais, enfin, moi, quand les gens me répondent, enfin, me posent la question, enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec ces deux voix, du coup? Mm-hmm. Bah, je vais les développer jusqu'à ce qu'il y en a une qui dépasse l'autre et puis après, je vais faire un choix.
Oui, qui arrive à un certain moment où justement il y a un choix possible, quoi, en fait.
Mais après, il y aura toujours l'espace l'un pour l'autre, tu vois. Genre, je ferai toujours du stand-up en loisir et je ferai toujours la politique en loisir, tu vois.
Ouais. Ça se fait, ça, la politique en loisir?
Bah ouais. Les commentaires Facebook, tu connais. Michel, tu es complètement tort sur la politique agricole commune de 1974. Non mais oui. Donc du coup, on va bien voir ce que ça donne et ce que j'aimerais bien. Enfin, par exemple, je sais que c'est un peu la trame normale du stand-up, mais pourquoi pas faire un podcast après avec justement des gens que j'aime bien, que je trouve intéressant.
Ouais, tu devrais, clairement. Hein, parce qu'en plus, tu vas arriver sur Bruxelles, tu vas rencontrer plein de gens.
Ouais.
Comme toi. comme toi, mais de différents pays, etc.
Non, mais
en vrai, c'est pour ça aussi, c'est pour rencontrer des. Moi aussi, je crée du lien.
Okay. Je crée du lien. Moi, je rencontre des gens et puis en fait, je vois que malgré nos différences, on va quand même se mettre d'accord sur quelques points.
On forme vraiment un tout ensemble. Voilà,
et là, je vois
Les yeux dans les yeux, la fraternité.
Est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, de toute façon, déjà, les gens ils vont pouvoir te retrouver sur Bruxelles. Déjà.
Ouais, Bruxelles, ouais.
Voilà. Ensuite, je mettrai en descriptif ton Instagram. Mon Instagram. Où est-ce que t'es le plus actif, en fait? T'as pas choisi, toujours pas.
Pornhub.
Ouais. Sur mon compte Pornhub, y a pas de souci.
Alors, pas de souci. Moi, je commente juste des pouces verts, pouces yeux. Après, ma spécialité, c'est le plus torride. Non, mais, Facebook, je suis le plus actif. Insta, c'est un peu plus perso, mais vous pouvez suivre là-bas aussi. Si vous voulez un petit peu voir le côté du personnage.
Ouais.
Et sinon.
Le côté nihiliste et dépressif. Le côté nihiliste et
dépressif, un petit peu. Vous allez regarder mes stories et puis vous allez me dire que. Ah ouais, putain, mais pourquoi il a posé ça en story alors que c'était pour attirer l'attention de quelqu'un? Avouez, vous le faites aussi. Sinon, bah, j'essaierai de revenir sur Paris de temps en temps. Et aussi en France, mais j'essaierai de rester en Europe, quoi. Tant qu'on m'y laissera. Avec mon passeport européen. Voilà, mais sinon, Bruxelles, janvier 2020, et Paris, décembre 2019. Et voilà, mais suivez-moi et puis on verra bien.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Areski.
Bah,
c'était vraiment sympa.
Bah ouais.
Ça va?
C'était vraiment fou.
C'était vraiment content.